On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, vous écoutez On ne va pas se mentir, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver ce samedi comme chaque semaine de 15h30 à 17h. Aujourd'hui, comme d'habitude, très gros programme, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Alexandre Allégret-Pilot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nous allons parler UFC et remboursement des piqûres d'amincissement avec Elliot.
En effet.
Merci d'être là, Elliot.
Avec plaisir.
Nous aurons également le plaisir de recevoir Baptiste Gilly, délégué national de l'UNI, qui viendra nous parler de l'islamo-gauchisme au sein de nos universités. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Alex.
Bonjour,
vous allez
Baya,
bien
ça va
tout en noir aujourd'hui?
Tout en noir, ouais. Full black.
Full black. Ouais, déjà une pièce dans le petit cochon.
Ah putain, c'est vrai. Non, bien joué, bien joué.
Le petit cochon d'ailleurs.
C'est vrai, il y a pas de petit cochon aujourd'hui. C'est peut-être qu'on est dispensé aujourd'hui et qu'on a droit aux anglicismes, je sais pas.
Non, jamais.
Non, toujours pas. Armand, comment allez-vous?
Bah superbe. Et puis je suis très heureux de voir votre nouvelle coupe de cheveux qui vous va ravir, Baya.
Et vous ne vous changez jamais? Parce que la dernière fois, je tiens à dire quand même aux auditeurs que la dernière fois, il était exactement habillé de la même manière.
Oui.
Vous avez quand même changé le t-shirt.
Alors, je fais deux fois la même veste de costume. Vous êtes en train de dire que je suis un dégueulasse auprès de nos spectateurs. Mais... oui, on peut porter deux fois la veste de costume. C'est un débat, c'est un coup de gueule, c'est quoi, c'est...
Un procès d'attention.
Ouais, vraiment.
Bonjour Alexandre, merci encore une fois d'être
merci.
Avec nous.
J'ai changé de veste de costume pour le coup. Je sentais quelque chose.
Tout de suite sur la défensive.
Alors, est-ce que vous avez changé d'opinion sur la peine de mort? Parce que
j'ai plus trop d'avis.
On en parlera plus. En tout cas, vous avez quand même suscité beaucoup de débats hein, sur les réseaux.
Mais c'est tout l'intérêt de la chose, non?
Ah, mais vraiment. Et je tenais à vous remercier parce que vous avez quand même fait beaucoup de partage de l'émission. Ouais. Vous avez été l'un de nos premiers invités. Et franchement, merci beaucoup. Hein.
Ben, moi, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Et puis, je pense que tout l'intérêt de ces émissions, c'est de parler des choses qui parfois mettent un peu mal à l'aise et sans pour autant se crisper. Donc,
écoutez, ça en a crispé quelques-uns, notamment nos chers confrères de Mediapart. Donc, on vient tout juste de lancer cette émission et déjà nous faisons l'objet de critiques et de mises en cause dans la presse. Une attaque qui, au fond, dit beaucoup de choses sur la nervosité autour du sujet, mais aussi sur la volonté de certains de disqualifier le débat avant même qu'il ait eu lieu. Dans un article publié cette semaine, Mediapart s'en prend notamment à Radio Courtoisie et à ceux qui ont relancé la discussion sur la peine de mort après ce drame qui a bouleversé le pays, le meurtre de Liana. Donc on nous attaque de racistes, d'antisémites, donc pas besoin de citer l'article, hein, on va s'éviter de lire de telles choses. Mais la critique ne porte pas seulement sur une idée, elle porte sur le fait même qu'on puisse la formuler publiquement. Donc Mediapart ferait mieux de bien faire son travail car le sujet n'était absolument pas sur cette affaire d'ailleurs. Êtes-vous étonné des propos de Mediapart, Elliot?
Mediapart étonné, non. Ça peut pas aller dans la même phrase. Je trouve ça. Il y a un truc que vous avez pas dit, Baya, qui est très sympa. C'est on parle de Radio Courtoisie, mais on parle pas de l'émission qui fait du coup cette question sur la peine de mort, qui n'avait en aucun cas un rapport avec l'affaire Liana, parce qu'à ce moment-là, quand on a fait l'émission, on venait juste de découvrir qu'elle avait été enlevée. Donc c'est assez grave.
Elliot, la table ne vous a absolument rien fait.
Je sais, mais je suis très en colère.
La table n'appartient pas à Mediapart.
Comme d'habitude, parce que en fait, on reçoit un invité, on pose des questions qui sont importantes aujourd'hui. On a beaucoup de dérives avec l'État. On a fait 10 ans de Macron. On veut savoir des choses parce qu'on arrive dans une année d'élection présidentielle et il faut savoir qui sont nos politiques. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent porter comme message pour 2027. Donc c'est normal.
Non mais moi je veux vous dire, le problème c'est pas le sujet en soi, c'est juste que Mediapart s'attaque à tout ce qui se crée de nouveau à droite. C'est tout simplement ça. On est une nouvelle émission, ils ont voulu s'attaquer à nous.
Moi
je vois ça plutôt comme ça.
On a
et ils ont essayé de faire du buzz en reliant deux sujets qui n'avaient absolument rien à voir.
On a relancé tous les médias aussi parce que ça fait 2 semaines grâce à tous les partages et les 300 millions de vues. Que CNews, BFM, LCI, Bonjour, tout le monde en a parlé. Donc apparemment, il suffit que une nouvelle émission, des invités qui parlent pas souvent, qui sont intéressants et nouveaux et jeunes dans le débat politique pour ramener des sujets de fond sur la table. Donc c'est intéressant aussi.
Alexandre.
Oui, en fait, c'est un sujet qui est éternel. On y revient tout le temps, on est toujours revenu, on y reviendra toujours. Donc ça, c'est au-delà de ça. On voit bien que déjà vous avez gagné une médaille avec Mediapart, bravo.
J'hésitais à le dire en plus.
C'est dur de passer
pas une première médaille.
Passer au-dessus, trouver la coupe, c'est le plus dur. On voit surtout que Mediapart utilise sa fonction de façon répressive. En fait, on a un média qui se prétend de gauche, et donc la gauche, c'est quand même le débat a priori, en tout cas en affichage, et qui utilise ça pour avoir une approche répressive envers des personnes, et pas des idées en réalité, envers des personnes, en les associant à tout un tas d'anathèmes qui visent à les disqualifier, à les sortir du débat. Donc on a une approche de personnes qui se crispent et qui ont une attitude en fait très très bourgeoise, paradoxalement.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on voit bien que les débats qu'on a pu avoir ont suscité beaucoup de commentaires. Ça a permis aussi à plein de Français, de viewers, que j'ai pas de terme d'abonnés, des abonnés.
De spectateurs.
De spectateurs sur les réseaux sociaux, de débattre, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un certain mépris. Et puis oui, moi, je suis pas étonné, hein, Armand.
Non, moi je pense que bon, ça s'est vu de toute façon durant ce débat. On n'était pas forcément d'accord d'ailleurs tous les deux. C'est ce qu'on appelle la pluralité d'opinion, mais le parti unique a encore frappé. C'est-à-dire que Mediapart a un avis sur la question, son avis est le bon, et tout ce qui est contraire à ses idées est sanctionné. Ouais. Moi je comprends absolument pas le débat. On a eu un débat, on avait un désaccord, on a donné chacun des arguments. Ça s'appelle un débat. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui en France sur lesquels on ne peut pas débattre. Ça n'existe pas. On peut débattre de tous les sujets. Ça s'appelle la liberté d'expression. Peut-être que c'est ce qui les dérange fondamentalement, mais ça c'est autre chose.
J'aimerais bien comprendre le rapport avec l'antisémitisme et le racisme, et surtout comment on a pu nous qualifier. De tel nom d'oiseau.
Alors, c'est ça. Moi, j'ai découvert.
Pour idiot.
Bah... en direct. Oh.
Non, mais c'est vrai que moi, j'ai découvert avec cet article que la peine de mort était un débat de droite, en fait. Je ne le savais pas. On a juste exprimé un débat qui est dans le débat public depuis des centaines et des centaines d'années. Ça a toujours été un sujet. Vous avez exprimé une position. Je pense qu'il n'y a rien de néfaste à ça. Et je n'ai pas compris la polémique, comme vous disiez, le lien avec l'antisémitisme. J'ai pas compris le lien.
Ah, Elliot, bah,
surtout qu'on a reçu Guillaume Carayon la semaine dernière, qui lui disait qu'il n'était pas forcément d'accord avec la peine de mort ou la remettre ou quoi que ce soit, d'évoquer le sujet, qu'il était très proche des idées de Badinter. Donc en fait, on a le droit aussi d'être un homme, un citoyen, et d'avoir ses avis. Non, je pense qu'aujourd'hui le problème, c'est surtout cette pensée de tout le monde doit rentrer dans un moule. Et Mediapart, qui est de gauche, je me souviens pas trop ce qui s'est passé au XXe siècle, mais je crois que la gauche a quand même mis beaucoup de monde, surtout les communistes ont tué pas mal de gens, non?
Oui, au nom de la liberté d'expression,
oui.
N'est-ce pas?
Bah oui, quand on devait applaudir pendant une heure un gouverneur qui était assez costaud, et que le premier qui applaudissait plus allait au goulag et était potentiellement soumis à la peine de mort, c'était un peu particulier avant, non?
La Corée du Nord.
Mai 68, la presse de gauche défend la pédophilie. Mai 68, la presse de gauche défend la pédophilie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des sujets extrêmement tabous qui sont... Enfin là, pour le coup, il n'y a même pas de débat, c'est-à-dire que c'est interdit, point. Eux, ils arrivent à créer le débat autour de ça. Par contre, la peine de mort, qui est un sujet lambda auquel on pourrait avoir un débat, ils le refusent. Donc vraiment, j'aimerais savoir où est-ce qu'ils mettent leur curseur. Qu'est-ce qui est autorisé comme débat chez Mediapart, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je serais ravi d'ailleurs qu'on reçoive peut-être quelqu'un de chez Mediapart pour en parler. Où est-ce que le curseur se place?
Ils viendront pas, moi. Edwy Plenel m'a bloqué, donc ça m'a fait envie.
Ça, c'est encore une meilleure médaille.
Je lui ai demandé de me démontrer pourquoi j'étais raciste, il n'a pas réussi, donc il m'a bloqué.
On peut lui lancer officiellement un appel à venir nous voir et à en discuter.
Edwy, si tu nous regardes,
écoute plus. Je suis pas sûr qu'il vienne.
C'est bon. Ramène-toi.
Moi, je pense qu'il est plus occupé à prendre des nouvelles de Tariq Ramadan, son grand ami.
Oh. Mais d'ailleurs, moi, j'ai un sujet, parce que on est parti de la peine de mort sans parler de Liana, mais en fait, aujourd'hui, moi, le sujet qui me pose problème, c'est que si on rapproche Liana dans cette affaire, sans parler de la peine de mort du sujet, on se rend compte, en fait, que les Français ne supportent plus le fait que des gens soient encore en liberté, alors qu'ils ne devraient pas être en liberté, qu'on puisse encore toucher à nos enfants. Et je vais passer
le périscolaire
surtout.
Là, c'est pas trop le sujet. Là, moi, je parlais plus de l'attaque de Mediapart.
Ah oui, mais il faut qu'ils regardent ce que veulent les Français aussi. Ça serait bien qu'ils se mettent un peu à la page. Parce
non, mais
que...
surtout que pour rebondir sur ce que vous disiez, Elliot, je trouve ça fou quand même que dans ce genre de cas, dans l'affaire Liana, on n'est pas quand même une alliance avec la gauche. Enfin, je veux dire, c'est assez logique là. Il faut juste être humain. Il n'y a pas besoin de passer par quatre chemins. C'est-à-dire que c'est quand même fou qu'on s'attaque sur ce genre de sujet.
Bah, vous étiez à l'Assemblée nationale pour la loi philippine ou pas?
Je crois,
oui. Et du coup, François Hollande, qui vote pas la loi philippine, qui, enfin, un ancien président qui a vécu des drames pendant son mandat, qui vote pas ça.
Il est pas là souvent. Hein.
Mais comment on peut ne pas voter ça? Comment on peut être aussi éloigné de la réalité?
Après, sur le...
Vous me posez une question, là, c'est pas moi, parce que
je représente pas François Hollande.
Non, mais je suis député. En fait, on a une gauche qui On dit que la droite, toutes les droites, c'est les droites les plus débiles du monde. Ah,
Elliot est colère.
Non, mais
colère.
En vrai, on regarde la gauche qui vote, on regarde un ancien président qui a vécu des attentats, qui a vécu des meurtres, et qui n'est pas capable de voter pour des gens dans son pays qui veulent que des gens soient plus longtemps en CRA pour éviter qu'il puisse y avoir des choses comme il s'est passé avec Philippine.
Alors là-dessus, enfin, ce qui est intéressant par rapport à Mediapart, mais ça reboucle avec ça, c'est que la gauche, on va dire la gauche un peu extrême, un peu hystérique, a cette capacité, se définit en fait beaucoup par sa capacité à briser des tabous. On va aller chercher les tabous pour essayer de les faire sauter, quoi. La pédophilie, c'était typiquement l'exemple en 1977 avec Libération. Mais en faisant ça, en fait, elle a besoin aussi de créer des nouveaux totems, si vous voulez. Et la question sur les CRA, moi, j'étais là pendant les débats, on disait, bah, il faut pouvoir augmenter la durée de rétention de personnes qui sont dangereuses, simple, et qui en plus n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc ça fait bingo, compte deux. Et l'argument, c'était, non, les étrangers, vous êtes racistes parce que les étrangers sont vulnérables, et donc vous devez les relâcher, d'ailleurs, vous devez les régulariser. C'est un nouveau totem. Voilà. L'étranger est vulnérable, et donc on ne peut pas y toucher. Quand bien même, il serait dangereux.
Elliot, je vois que vous êtes très énervé, et d'ailleurs, vous avez un coup de gueule.
Bah, comme d'habitude, hein. Encore une dinguerie française. Comme on aime, donc oui, ça dépasse l'entendement. Je vous allais me dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a ces piqûres amincissantes, Mounjaro et Wegovy. Elles sont pas encore, pas celles-là. Je sais pas si vous connaissez. Donc, ça permet, en fait, c'est une piqûre par semaine et ça vous permet de maigrir. Voilà, tout simplement. Donc, normalement, c'est un médicament qui est pour le diabète et qui vous permet, en fait, de réduire votre masse graisseuse pour redevenir un athlète. Armand, peut-être.
J'apprécie moyen. Je vous le dis. Si vous avez un message,
et du
à
coup,
faire passer,
ces piqûres amincissantes vont être remboursées à 65% par la sécurité sociale. Donc, nous. Donc oui, ce qui m'énerve, c'est que quand je fais le calcul de ce traitement qui coûte 350€ par mois, remboursé à 65%, donc 120€ de reste à charge, on est sur une cible d'1,5 million de personnes prévues, ce qui fait un remboursement annuel de 4 milliards pour la Sécu. Voilà, un trou qui est déjà abyssal, qu'on continue de creuser comme on aime faire. Ce qui est le pire en vrai pour moi, c'est que les critères sont ridicules, c'est-à-dire qu'il faut avoir un IMC de plus de 35, et prouver qu'on n'arrive pas à maigrir. Voilà. Est-ce que vous avez déjà réussi à prouver que vous n'arrivez pas à maigrir ? Non, personne. Donc encore une brillante idée. Moi, mon problème n'est pas forcément que ça, c'est que je regarde la population, je vois des gens qui sont cadavériques à cause de ces piqûres, et surtout qui arrivent à se procurer ces piqûres sans ordonnance, ou alors des ordonnances qui leur sont données. Je ne comprends pas. Donc l'objectif, un objectif de rembourser ces piqûres avec un résultat qui va être encore approximatif. Lorsqu'on regarde à l'étranger, les États-Unis, le Royaume-Uni ne remboursent pas ces piqûres. Quand on regarde l'Allemagne, c'est inconcevable pour les Allemands que le remboursement public de la Sécu publique puisse rembourser des piqûres comme ça. Alors je ne comprends pas en France qu'on puisse encore être aussi à côté de la plaque. Et j'ai trouvé un seul pays qui le fait bien. C'est la Suisse. La Suisse, elle fait une chose qui est très claire, c'est vous avez le droit à la piqûre, il n'y a pas de problème, vous avez 4 mois suivis par votre médecin. Si au bout de 4 mois, vous n'avez pas réduit votre masse graisseuse de 5%, au minimum, nous ne remboursons plus. Voilà. Avec une lettre du médecin qui doit prouver à tous ses collègues que vous avez bien perdu. Voilà. Pourquoi nous, on est toujours à côté de la plaque ?
La question qui se pose, est-ce que vous êtes pour ou contre le remboursement, Armand ?
Alors,
c'est votre sujet, ça. Vous êtes très sensible à ce sujet.
Parce qu'en fait, vous passiez soit en premier, soit en dernier.
j'avais bien compris cette grossophobie.
Il y a une BA, ok ?
Non, plus sérieusement, moi j'ai deux arguments et je suis pour, et j'ai deux arguments pour lesquels je vais défendre.
Faut pas que ça soit des arguments personnels.
Hein. Non, tout d'abord j'ai un argument social. Ça s'appelle la solidarité nationale. Le deuxième argument, il est économique. En fait, aujourd'hui, une personne atteinte d'obésité, morbide, coûte beaucoup plus cher à la Sécu sur le long terme, notamment lié à des maladies cardiovasculaires et autres, coûtera beaucoup plus cher qu'un simple médicament de piqûre qui lui permettra de perdre du poids.
Vous pensez réellement qu'il y a des personnes...
Attendez, bien sûr.
Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en incapacité de perdre du poids. Vous savez, l'obésité morbide, c'est une maladie. C'est pas juste quelqu'un qui est feignant ou qui ne va pas au sport. Ça existe. Vous pouvez ne pas le concevoir, mais il y a des gens aujourd'hui, malgré leurs efforts, malgré des régimes monstrueux qui s'appliquent, etc., ne perdent tout simplement pas de poids. C'est une maladie. C'est comme ça, ça arrive. Par solidarité nationale, moi, j'aimerais aider mes compatriotes français à se sentir mal.
J'ai tellement peur de ce que vous alliez dire.
Et par solidarité, vous devriez payer.
On fera des grues de force, hein, de toute façon.
Alexandre.
Ça dépend des cas, en fait. Je fais une réponse de politicien, je suis désolé.
Allez-y, monsieur.
On a.
Que c'est pas Nini, c'est bon.
Voilà, on a 17% de la population qui est adulte, qui est obèse en France. Donc c'est un vrai sujet. On a la moitié des Français qui sont en surpoids. Un vrai sujet, encore une fois. Et le taux de remboursement, vous l'avez souligné, à 65%, je crois.
Oui, c'est ça.
Par contre, pour les affections de longue durée, il est à 100%.
Ah bah génial.
Tout à l'heure, vous faisiez référence plutôt aux affections de longue durée, c'est encore autre chose. Et la question, c'est celle de du coût pour les finances publiques. Mais là, il faut avoir le coût complet. Et ce n'est pas dit que les effets secondaires de ce genre de produit à long terme n'aient pas aussi un coût, ne génèrent pas un coût. Moi, je connais des personnes qui ont utilisé de l'Ozempic pour des problèmes de diabète et qui ont eu des conséquences en réalité physiques terribles, parce que ce n'est pas que la perte de gras, c'est de la perte de muscles et c'est de la perte d'os aussi.
Exactement.
Un peu d'ostéoporose qui se crée. Donc tout ça, ça nécessite d'être un peu vu dans le détail, d'avoir les bonnes segmentations. Mais le risque que moi je vois venir, c'est assez simple. C'est celui de l'élargissement et de faire un peu comme aux États-Unis. Au bout d'un moment, on aura, disons, de l'Ozempic ou autre, de confort. Et en fait, en faisant ça, un des risques, c'est de casser le signal, entre guillemets. C'est-à-dire que si j'ai aucune façon de voir les conséquences néfastes de mon comportement, parce qu'une partie est due au comportement, tout n'est pas dû au comportement, une partie est due au comportement, qu'est-ce qui fait que je le corrige ? Je ne le corrige pas. Et donc, les conséquences ne sont pas que liées à l'obésité, que sur l'obésité. Ça peut être des conséquences cardiovasculaires qui ne sont pas visibles en termes d'obésité et qu'en fait, qui vont faire que je vais avoir, en fait, je vais partir en roue libre dans une direction qui va être encore plus grave. Vous voyez ce que je veux dire ?
Moi, ça me désole parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une société de feignasses. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai.
Je voulais pas faire mon Daniel Riolo, mais. Non, mais. Pas loin.
Non, mais c'est-à-dire que maintenant, on est tellement dans une nation paternaliste que maintenant, on est obligé de piquer les obèses pour qu'ils puissent maigrir et se sentir bien. Mais c'est quand même de la folie, c'est-à-dire que pour moi, là où il y a quelque chose à faire, c'est plutôt dans la prévention. Il y a un truc que moi je suis pour à 100% et qui est fait aux États-Unis, c'est mettre les calories quand on va au restaurant sur la carte. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Enfin, ça les gêne pas.
Hein. Ça serait bien. Là, maintenant, moi je sais très bien, j'ai connu pas mal de filles qui faisaient ça parce que les anneaux sont remboursés là. Donc, c'est des espèces d'anneaux qu'on vous met dans le ventre qui vous permet de resserrer votre estomac et ça permet d'avoir une plus grande.
C'est
un effet coupe-faim. Et il y en a beaucoup qui prennent du poids étant donné que je ne comprends pas pourquoi ça vous fait rire.
Je les connais pas moi donc.
Vous avez essayé un moment.
La je connais rien.
Les filles ou les techniques.
Non et en fait il y en a beaucoup étant donné que vu qu'on est dans un pays où il y a des règles hyper strictes etc et un peu bêtes et on réfléchit pas, on le dit à ces femmes là mais en fait il faut faire un tel poids pour pouvoir bénéficier de cet anneau gastrique. Mais en réalité il y a des femmes qui prennent plus de poids pour pouvoir bénéficier de la pose de cet élément. Donc en fait pour moi c'est un peu stupide, il vaudrait mieux renforcer les cours de sport dans les écoles et avoir une meilleure prévention. Voilà. Sur l'alimentation. Elliot.
Moi, mon problème, il n'est pas que sur ça, c'est qu'aujourd'hui, vu que c'est pas mesuré, c'est-à-dire que vous allez le faire pendant 2 mois, vous allez perdre 5, 6 kilos, 7 kilos, vous allez voir que ça marche, vous allez remanger comme c'est pas permis, et vous allez reprendre cette piqûre, donc faire des yo-yo constants. Donc en fait, vous avez une piqûre de confort pour faire le poids idéal, mais pendant quelques mois, vous vous autorisez à faire des fluctuations qui vous permettent derrière, à coup de piqûre, de revenir au poids idéal. Donc ça, je le comprends pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis ne l'ont pas remboursé, parce qu'ils ont compris, et c'est nous, on ne comprend toujours pas ça, c'est vraiment aberrant, c'est qu'à chaque fois qu'on sort quelque chose, il y a un détournement. Aujourd'hui, ces piqûres, elles vont être détournées, on le sait. Il y a des gens déjà aujourd'hui qui l'utilisent, qui font 55 kilos, mais qui veulent arriver à 49. Donc, ils l'utilisent. Donc, demain, on aura quand même ce problème de remboursement pour des gens qui ne doivent pas avoir ce remboursement.
Ça va être quoi ? Dans 10 ans, on va rembourser le visage pour les moches ? Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on va... Bah, non, mais c'est vrai, on va dire aux gens, bah, vous avez un nez qui est moche, on va
le
faire rembourser.
La chirurgie esthétique, c'est remboursé en partie ?
Non,
si, c'est vrai.
La chirurgie réparatrice.
Non. Mais les gens arrivent à faire rentrer dans ça des choses qui sont parfois plus esthétiques
reste...
de l'ordre de ce qu'on estime de soi, de la beauté courante. De moins en moins en tout cas.
Armand.
Non, mais moi,
c'est un sujet qui vous tient à cœur.
Mais oui, parce que j'ai l'impression d'avoir un débat avec ma maman de 70 ans qui, à chaque fois que je prends un doliprane, m'engueule en me disant oui, mais les tisanes, c'est bien mieux. Non, mais... vous êtes contre le progrès. Voilà.
C'est du tout. On avait un vaccin contre le Covid, on nous a dit oui, il faut pas se vacciner, machin, les trucs, on sait pas les conséquences. On sait très bien que l'Ozempic, ça fait 2 ans que c'est sorti et on connaît pas les conséquences sur 10 ans. Si ça nécrose l'os, si ça enlève de la masse graisseuse ou de la masse musculaire en profondeur, on ne le sait pas. Donc ça sert à rien de réfléchir comme ça.
Il y a quand même des études médicales qui sont menées, effectivement peut-être qu'on découvrira des effets plus tard et qui seront peut-être également désastreux, ça on n'en sait rien, ni vous ni moi ne le savons pour le moment, en tout cas c'est en étude, on verra bien ce que ça donnera. Après tout à l'heure vous disiez oui, c'est en fait vous présentez ça comme si c'était une piqûre magique, je me pique demain, je perds 20 kilos. C'est pas vrai, ça s'accompagne quand même d'une alimentation saine, on recommande quand même de faire du sport, c'est pas la piqûre magique, on peut pas rester dans son lit à procrastiner toute la journée en se piquant avec une piqûre et perdre 40 kilos, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça.
McDo il recommande de manger 5 fruits et légumes par jour, pourtant ça reste quand même aberrant,
c'est
donc il y a un moment il faut
magique.
Alexandre.
J'ai trois remarques rapides. Il y a la question de l'impact sur le comportement qui a pu être évoqué à long terme. C'est au-delà des cas vraiment morbides. Moi, je parle de potentiel élargissement. Parce que là, ce qu'on nous vend,
pas le morbide. Hein,
moi, quand je lis les scientifiques là-dessus, ils nous disent en fait, d'ici 10 ans, il y aura plus d'obésité dans les pays développés.
Bon, donc on a un pays sous-développé.
Mais la question, c'est quel est l'impact sur le comportement. Si moi, j'ai un médicament qui m'empêche d'avoir la gueule de bois, qu'est-ce que je fais?
L'hydratis, ça existe.
Il est possible que je me mette des cuites tous les soirs.
Pas de
et il est possible que ça ait des conséquences autres que la gueule de bois, si vous voulez, et que ce soit néfaste. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça ne peut pas aggraver les choses à long terme, en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question des politiques publiques relatives à l'obésité et au surpoids. Le Japon a mis en place une technique à la japonaise. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier. Ils n'ont pas la même génétique, ils n'ont pas le même régime alimentaire. Mais c'était beaucoup plus fruste, entre guillemets, mais ça a été extrêmement efficace. Ils ont vu que les Japonais devenaient un petit peu obèses dans les années 60, je crois, ou 70. Ils ont dit, bon, les hommes font en moyenne cette taille, les femmes font en moyenne cette taille, le tour de taille, il ne faut pas qu'il dépasse tant chez les hommes, il ne faut pas qu'il dépasse tant chez les femmes. Si ça dépasse, on vous propose un petit stage de suivi, sauf erreur, et si vous ne le suivez pas, eh ben, vous êtes moins couvert. Bon, ben, les Japonais, ça a filé droit, et vous voyez, le taux d'obésité au Japon est parmi les plus bas au monde, notamment au regard de leur régime alimentaire... notamment au regard de la génétique certainement, mais aussi au regard de cette politique publique qui a été développée. Et ça ne repose pas sur une technique ou sur la technologie pour le coup, ça. Donc ça peut être très intéressant, ça ne coûte pas cher. Et puis moi, j'ai dernier point que ça m'évoque, c'est où sont passés les fans du body positivism. Positivism, je crois qu'on dit ça.
Ouais,
les fans du body positivism, l'ISO, moi je ne la vois plus. Vous voyez. Donc on voit l'hypocrisie.
Ah bah si, la semaine dernière, on avait le débat, il y avait Barbara Butch.
Oui, c'est ça.
Oui, mais tout d'un coup, l'ISO fait plus le même poids, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie totale.
C'est comme Léna Situation, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, elle a perdu au moins 20 kilos.
Adèle, quand elle a commencé la musique, elle était en surpoids. On la voit aujourd'hui, elle est rentrée dans les standards hollywoodiens.
Mais alors, c'est une différence entre changer de corpulence et faire la promotion d'une pseudo corp en disant oui il faut sortir des codes pour pouvoir y rentrer dès qu'on a l'occasion. Ça relève de l'hypocrisie.
Quand on a comme ambassadeur Serena Williams qui va revenir sur les terrains à Wimbledon grâce à cette piqûre, comment vous voulez qu'on puisse lutter?
Ça, le body positive, ça fait partie des dérives et vous avez absolument raison. Faire de la promotion de la mauvaise santé, c'est pas forcément quelque chose qui soit bon.
Bon, on va parler sport et bonne santé avec Alex. Ah. Aujourd'hui, vous avez un coup de cœur qui concerne une performance d'un athlète français.
Exactement, j'ai un coup de cœur pour le combattant français de MMA Cyril Gane. Je suppose que vous le savez tous, mais le week-end dernier, Donald Trump fêtait son 80e anniversaire. Et pour fêter ça, il a organisé une soirée exceptionnelle de combat UFC à Washington en plein cœur des jardins de la Maison Blanche. Le français de 36 ans, Cyril Gane, était l'une des attractions de la soirée. Il a remporté la ceinture intérimaire UFC des poids lourds en gagnant son combat contre la star brésilienne Alex Pereira. Il l'a mis KO dans le deuxième round, sous les yeux de Donald Trump, qui a évidemment assisté au spectacle. Et d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé à Evian cette semaine pour le G7, il a dit à Emmanuel Macron, je cite, je veux féliciter le président. La nuit dernière, Cyril Gane a remporté le combat contre un grand combattant supposé être invincible. Et Cyril vient de France. C'était un grand combat. C'était une excellente soirée à la Maison Blanche. Alors déjà, il faut reconnaître que c'était seulement la deuxième défaite par KO concédée par Alex Pereira. Alors moi, quand je vois ça, je me dis que c'est la France qui brille. En plus, c'est un athlète que j'adore. Franchement, il a l'air d'avoir une très bonne personnalité. Son surnom, d'ailleurs, c'est le bon gamin. Donc moi franchement je vois ça, je trouve qu'il fait rayonner la France dans un événement en plus 100% américain et je pense que c'était important qu'il marque les esprits là-bas, donc j'ai beaucoup aimé voir ça le week-end dernier.
Bah surtout qu'en plus en ce moment il n'y a pas trop d'événements aux c'est États-Unis.
Donc, et en plus, on a eu Moïse Kouamé qui a mis quand même la France sur le devant de la scène à Roland-Garros,
qui n'est
pas allé
aussi
si loin que ça, mais je trouve que Cyril Gane justement il a bien pérennisé cette petite démonstration des Français dans le sport, j'ai beaucoup aimé.
Je trouve qu'en ce moment, on a quand même une bonne dynamique. On a eu cette semaine le match France-Sénégal.
France-Sénégal, exactement.
La France a gagné
3 buts à 1.
On a eu Wemby aussi.
C'était un match qui était quand même assez particulier.
À
la première mi-temps, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, première mi-temps catastrophique, mais la deuxième mi-temps, les buts se sont enchaînés. Et franchement, je voulais faire un sujet là-dessus, mais Elliot n'était pas d'accord.
Ok, on met le sujet sur la table.
Patriarcat. Mais j'ai trouvé que Mbappé avait une belle revanche quand même sur la vie et sur tout ce que les gens ont pu dire sur lui ces derniers temps.
C'est ça, ce qui est fort avec Mbappé, c'est qu'il a... Alors, hors en Ligue des Champions, il a vraiment le... En fait, il y a...
On peut pas lui retirer son arrogance quand même et le fait qu'il soit quand même insupportable dans les médias.
Alors, est-ce que c'est de l'arrogance ou de l'assurance? Je sais pas comment faut le décrire, mais c'est vrai que en fait dans le football il y a souvent les grands sportifs ont une compétition majeure où ils sont imbattables et où ils dominent le sport
contre vents et marées, Mbappé, c'est la Coupe du Monde. Et voilà, je pense qu'il avait déjà prévenu quelques jours avant qu'il était à 100%, qu'il était prêt à tout donner pour l'équipe de France. On a beaucoup douté parce que la première mi-temps, c'était compliqué. Il y a le débat Dembélé Ballon d'Or qui n'est pas mis dans les meilleures dispositions en équipe de France parce qu'on donne tout à Mbappé. La première mi-temps, on a vu que les combinaisons, c'était très très compliqué. On s'est un peu reposé sur Mikel Olise qui est la nouvelle star. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait pour choisir la France aussi, mais quelle chance d'avoir... parce qu'il est, il a plusieurs origines, il a choisi de, voilà, il est anglais, il est nigérian je crois aussi, et il a choisi la France, donc on a de la chance de l'avoir, et au final Mbappé a montré en deuxième mi-temps qu'il est toujours le joueur, le grand joueur qu'il est.
On va revenir sur l'UFC, Alexandre, vous aviez une anecdote par rapport à ce sport?
Ah oui,
vous avez pratiqué l'UFC?
Alors non pas de l'UFC mais du MMA, du pancras, oui,
okay.
Mais dans une autre vie, oui.
Ouais. Ok,
j'ai été champion de Guadeloupe.
C'est vrai?
Ah ouais. Ouais.
Mais je suis nul, hein. C'est juste que j'avais travaillé.
Et c'est pour ça d'ailleurs que nous vous avons invité ce soir.
Combattre
pour Cyril Gann arrive.
J'ai été champion de France de kickboxing.
Alors moi je pensais que vous l'avez invité parce qu'il avait été en Guadeloupe et que. Mais non, rien à voir.
Ah oui, non.
Moi aussi. Pour aussi, de la Guadeloupe, voilà. Si vous voulez.
Et j'avais à l'époque. Le MMA était interdit en France jusqu'il y a
exactement.
Peu. Et j'avais attaqué l'arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre des Sports, qui interdisait de facto la pratique du MMA devant le Conseil d'État.
D'accord.
J'avais perdu, mais ça avait un petit peu accéléré les choses. Et un an et demi après, le MMA a été légalisé dans notre pays.
Bah en fait, c'est comme avec Armand et les obèses sur le long terme. Vous avez la vision.
Exactement.
La vision.
On est à l'avant-garde avec Armand.
C'est important. Je vais finir par être vexé.
Vous avez la vision.
Vous avez pratiqué des sports de combat, vous?
Moi, j'avais fait de la kickboxing. C'était pas une blague. J'avais fait de la kickboxing pendant longtemps en semi-pro. La blessure m'a valu ce poids et les balles sur
les croisés.
J'ai
failli
me croiser. Non, pas les croisés, mais je me suis fait casser le genou. C'est vrai. Mais et c'est vrai que je vous rejoins. C'est vrai que ça, pendant longtemps, c'était interdit le MMA. Pourtant, on a eu quand même des grands noms comme Cheick Kongo et d'autres qui ont promotionné le MMA à l'international. Tout à l'heure, on parlait de l'UFC. On a parlé de Cyril Gane, effectivement, qui a eu une superbe victoire magnifique. J'ai veillé tard pour la regarder, c'était sublime. Mm. Mais il y a aussi Manon Fiorot dans la division féminine qui est en train de dominer, qui sera sûrement une future championne. On a Benoît Saint-Denis, faut pas l'oublier, qui est en train de s'imposer. On est en train de vraiment dominer, je trouve, dans cette discipline. La France est en train de dominer l'UFC de petit à petit. Et même dans le MMA, en règle générale, on a des stars montantes, que ce soit à la RES ou autre. Je pense à Baki, à Sango ou d'autres, qui sont
Cédric
en train de monter.
Dombé aussi, qui est assez, sport,
Dombé assez âgé maintenant. Mais oui, ouais. Oui, oui.
Ouais. Et là, vous avez suivi l'UFC?
Non, j'ai pas suivi, mais j'ai okay. Regardé la retransmission. Enfin, j'ai regardé après derrière le lendemain matin. Et en vrai, outre le fait qu'on oublie quand même 80 ans à la Maison Blanche de Donald Trump, c'est quelque chose. Hein.
C'était super spectaculaire.
C'est quelque chose.
Et vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Monsieur Pilou Allégret, l'autre fois que quand vous étiez venu, vous avez dit que Emmanuel Macron était un kiffeur.
Donald un peu aussi.
Et ben, Donald Trump s'est fait un gros kiff. En vrai, il s'est fait
un
très
Trump,
gros
c'est
kiff.
Un gros
c'est incroyable.
Kiffeur.
D'ailleurs, l'UFC a indiqué avoir perdu énormément d'argent. Cette affaire. Ouais.
Et je pense que ça le dérange pas d'être.
Et Donald Trump a avoué en avoir gagné beaucoup.
Je sais pas si vous avez suivi cette semaine le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. À volo. Il y a parfois des images qui résument à elles seules l'état d'une société. À Ivry-sur-Seine, lors d'un conseil municipal, un élu a brandi un crucifié et récité un « Je vous salue Marie » pour dénoncer ce qu'il considère comme une laïcité à géométrie variable. Son geste intervient alors que deux élus de la majorité siègent voilés au sein du conseil municipal et qu'un amendement visant à interdire les signes religieux ostensibles avait été rejeté. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: pour vous, est-ce qu'il y a un souci d'égalité entre les deux religions au sein de la société?
Alors, c'est à moi.
Oui.
Je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je pense que cette dame a respecté la loi. La loi ne prévoit rien. Elle a effectivement le droit de siéger. Elle a effectivement le droit de siéger au sein du conseil municipal avec ce voile. Elle a respecté la loi. On est quand même dans un état de droit. Elle respecte la loi. Cependant, je vais mesurer mon propos. La provocation, parce que c'est une provocation, du député RN est salutaire. Je pense qu'elle a relancé un débat qui était nécessaire. À titre personnel, vous voyez, je me contredis, mais c'est à titre personnel que je vous dis ça. C'est que pour moi, au moment où on est dans une instance représentative, qu'on représente des Français, que ce soit au conseil municipal, que ce soit à l'Assemblée, peu importe, au moment où on représente des Français et qu'on est élu par ces derniers, j'estime qu'on devrait ne porter aucun signe effectivement religieux. Cependant, si elle a le droit, eh ben ce conseiller municipal du Rassemblement National a tout à fait le droit également, dans ce cas, de brandir le Christ et de
rejeter
le salut de Marie.
Vous vous rendez compte quand même qu'en 2026, on a ce genre de débat? C'est-à-dire
c'est
qu'avant, on était dans un débat où, en fait, je vais pas faire d'islamophobie comme ils aiment bien dire, mais avant c'était plus un débat d'acceptation. Maintenant on est dans un débat de confrontation.
Mais parce que
c'est quand même de la folie. Et vous dites non, mais la laïcité, mais moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Dans ces cas-là, on va retirer toutes les églises de toutes les villes.
C'est de choses
c'est n'importe quoi.
Mais c'est pour ça que je vais me tourner vers Monsieur le député. Il y a un problème, c'est que le législateur aujourd'hui n'a jamais rien prévu en termes de laïcité par rapport à l'augmentation du nombre de musulmans. C'est-à-dire que la loi de la laïcité telle qu'on l'avait vue paraît logique. C'est-à-dire que nous, on a une espèce de logique qui s'est appliquée au fil du temps de la décrétinisation entre guillemets des institutions,
où on se
dit c'est logique de ne pas mettre le voile lorsqu'on est au sein du conseil municipal. Pour nous, ça paraît logique. Sauf que factuellement, ce n'est pas encadré par la loi.
Pour moi, ça va au-delà de ce sujet. C'est pas une question d'islam ou pas, c'est une question de pratique et de communauté nationale. On a laissé la nation se fracturer sur des pratiques communautaristes avec une approche qui se voulait bienveillante et qui est en fait une approche méprisante. Qui dit, oh, vous n'êtes pas capable de vous intégrer, donc restez comme vous êtes. Et venez comme vous êtes. Ce qui est à mon avis hyper méprisant en réalité, même si ça prétend être bienveillant. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des pôles comme ça, de personnes qui ont des accoutrements qui ne correspondent pas à l'accoutrement français, entre guillemets, qui même dans certains pays musulmans ne sont pas acceptés. Mais qui aujourd'hui sont revendiqués en tant que tels dans l'espace public et qui font sécession, entre guillemets, symbolique de l'espace public. La doctrine de l'UDR et du RN là-dessus est assez claire. Hein. On est contre le voile parce que c'est une rupture avec la communauté nationale, en réalité, qui est assumée, qui est revendiquée par beaucoup et qui, en fait, est déconnectée de la dimension religieuse en tant que telle et de la dimension spirituelle, à mon avis, de façon très très large. Donc, la question, c'est celle du législateur, d'accord. Mais au-delà de ça, à partir du moment où il faut une loi pour dire aux gens comment s'habiller, pour bien vivre en société, c'est qu'il y a un problème. C'est que la communauté nationale n'est pas unie du tout. Moi, j'ai pas besoin, si vous voulez, si je vais vivre au Japon, qu'on me dise que je dois m'habiller de telle façon. Et aujourd'hui, si on a... Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont d'origine asiatique, ils se prennent pas en kimono dans la rue, vous voyez ? Ou ils se prennent pas dans une tenue traditionnelle de leur religion.
Vous parlez de deux choses totalement différentes.
Non, c'est...
L'islam a une volonté de conquête.
Non, je parle même pas de la religion, je parle
ici, y a
des individus.
Il y a forcément une dimension de religieux. C'est forcément, Ayot.
Moi, pour revenir à ce sujet, je pense que, en fait, le problème, pour revenir, vous avez un peu tous les deux raisons pour moi. Je pense que le problème, il est que, oui, on doit pouvoir accepter tout le monde, et je suis d'accord avec toi qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, parce que la loi n'encadre pas ces choses-là. Maintenant, il y a de la bienséance, et il y a aussi, parce qu'on parle quand même d'un voile qui est un voile donc musulman. C'est un signe d'appartenance. Normalement, on n'a pas le droit d'avoir des signes ostentatoires et qui nous ramènent à une religion. C'est pour ça que moi, je ne pense pas avoir vu des gens avec des kippas ou avec des grosses croix affirmées. Enfin, on a eu une contradiction pendant ce conseil municipal où quelqu'un dit oui, on a élu un curé à l'Assemblée et ainsi de suite. Il était en
quelle année ? En quelle année ?
C'est interdit désormais.
Ouais. Donc c'est interdit. Moi, le problème que j'ai, et je vais rattacher ça, je pense aussi que le voile n'est pas une solution. C'est-à-dire qu'il y a certaines religions, il y a le judaïsme et l'islam, qui prônent de couvrir la tête des femmes, ok ? Pour certains niveaux de religion. Dans le judaïsme, on a mis en place on a mis des perruques. Pour protéger et pour dire, bon, bah, vous n'avez pas le droit de montrer vos cheveux, mais vous avez le droit de mettre une perruque, c'est pas vos cheveux. Pourquoi l'islam ne permet pas ça, qui est en fait une acceptation de la ville où vous vivez, de l'état où vous vivez, qui n'accepte pas le voile, parce que ça vous rapporte et ça vous stigmatise, c'est une stigmatisation que vous acceptez.
Mais vous êtes bien naïf.
Bah non, je suis pas naïf, mais je sais pourquoi. Mmh. Parce que quand Napoléon était là et qu'il a demandé à ce que les juifs créent un consistoire pour qu'ils soient un peu plus laïcs et un peu plus, intégrés dans la cité à l'époque, bah ils l'ont fait. Et ils ont décidé de se mettre au pli. Et aujourd'hui, vous avez de moins en moins de gens qui montent leur kippa, de moins en moins de gens qui se couvrent la tête, de moins en moins de gens qui montent leur tzitzit, comme ils les appellent, apparent. Donc aujourd'hui, vous avez de moins en moins de gens qui montrent leur religion dans le judaïsme, dans le catholicisme, mais l'islam, non. Et c'est ça le problème. C'est que tout le monde fait un effort, et c'est pas être islamophobe de dire « il faut que vous vous mettiez à la page dans un pays qui est laïque ». C'est tout.
Mais c'est au pays de le dire, ça.
Vous êtes naïf, Eliott. Hein.
D'ailleurs, la question, c'est même pas la laïcité, parce que la laïcité ne s'applique pas en Alsace-Moselle, par exemple. Non mais, vous voyez, c'est pas laïque. Il n'y a pas de problème. Donc, la question de la laïcité, en fait, c'est encore autre chose, carrément. C'est la question plutôt.
Du coup, le problème, c'est quoi ? C'est Paris, c'est les grandes villes, c'est ça ?
C'est l'assimilation.
Bah oui, mais du coup,
attendez, mais vous êtes encore, mais vous en êtes encore là, l'assimilation.
Mais si on donne,
mais comment voulez-vous
aux gens...
on assimile des individus, on assimile pas des masses. C'est peine perdue. Enfin, à un moment donné, il faut réagir.
On en revient
quand même.
Toujours à la même chose. Quand les gens sont arrivés, je vais parler pour mon cas, quand mes grands-parents sont arrivés de Tunisie, ils sont traditionnalistes, ils ont décidé de prendre les coutumes du pays où ils arrivaient. Ok, donc on ne parle pas arabe, on ne parle pas.
Vous êtes un cas à part.
Non, je suis pas un cas à part. C'est arrivé à des centaines de personnes. Il y a un nombre
de personnes, mais moi je vous parle des nouvelles générations.
Mais la nouvelle génération qui est née ici, c'est de son propre chef qu'elle a décidé de revenir à des pratiques de 1850.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Donc c'est eux le problème. C'est pas leurs parents, leurs grands-parents.
Je suis cette nouvelle génération Bayer. Moi-même, j'ai été naturalisé. Est-ce que je me suis mis assimilé? Oui. Quand je suis arrivé dans ce pays, je suis arrivé dans ce pays, on m'a expliqué quelle était la règle de ce pays, quelle était le modèle de ce pays. J'ai choisi d'accepter, je me suis adapté.
Mais c'est des arguments individualistes, mais ça n'existe pas.
Ça existe.
Mais ça n'existe pas, vous parlez pour vous-même. Vous ne représentez que vous-même.
Ça fait mal, ça.
Ça fait mal,
vous Mounjaro et vous représentez que vous-même.
Vous ne représentez que vous-même.
Mais c'est pas vrai.
C'est n'importe quoi.
Oui, effectivement, je ne représente que moi-même, mais je suis désolé, c'est un modèle qui a existé, qui a été promu, qu'on a oublié. Lorsqu'on donne des règles claires à des citoyens, je suis désolé, ils les suivent. Il faut les donner. Il faut arrêter d'être lâche sur ce sujet. Mais, il faut accepter
mais
que
mais la laïcité, c'est censé couvrir toutes ces questions.
Mais non,
la
laïcité est en échec depuis des années parce que chacun l'interprète à sa façon. Oui. Et en fait, il n'y a aucun modèle clair qui est imposé.
Oui, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Ça reprend un peu ce que disait le général de Gaulle à propos de l'Algérie.
Ah, le gaullisme.
Il disait on va avoir une incapacité d'assimilation de population trop importante et avec des différences trop fortes culturellement parlant. Lui, il parlait d'ethnie, hein, carrément. Donc là, je vais pas me faire des cadeaux avec Mediapart, mais je vous donne un exemple très très simple.
Alexandre veut
allez,
son
Mediapart,
portrait.
Tu nous écoutes. Edoui, c'est pour toi. Je vous racontais une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3 mois en circonscription. J'ai une personne qui m'a interpellé dans la rue parce que j'avais fait une blague sur le voile. Il y avait une photo de maman qui attendait devant l'école privée, devant l'école d'Alès. Il y avait que des femmes voilées. J'ai expliqué que... Et c'était pour lutter contre les fermetures d'école. Et j'ai expliqué que à Alep comme à Alès, luttons contre les fermetures de classe. C'était la petite blague. Et donc, c'est mal passé. Si vous voulez, auprès de certaines personnes qui sont venues me menacer dans la rue en me disant que c'était des anciens du FLN et compagnie. Et donc, ces individus qui sont français m'ont dit qu'ils sont présentés comme algériens. Ils disent, vous êtes algériens, vous êtes français. Non, on est pas plus français, mais on est algérien. Vous êtes depuis quand? Mes grands-parents sont arrivés pour travailler dans les mines en 1920.
Mais les grands-parents étaient très bien intégrés.
Moi, mes grands-parents sont arrivés bien plus tard et j'arrive pas en disant que je suis italien.
Oui. Ouais.
Mais ça veut tout dire. Sur la capacité d'intégration de certaines personnes, qui ne reflètent pas tout, naturellement. Mais ça, c'est quand même assez symptomatique.
Oui, mais parce que vous oubliez la dimension religieuse de tout ça. L'islam est une religion de conquête, donc par extension, elle veut conquérir le territoire. Et le voile occupe l'espace public et montre que l'islam est en France. Armand, vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est que je conçois que l'islamisme aujourd'hui s'infiltre partout et qu'il cherche les moindres failles de notre système pour les exploiter. Et des failles, il y en a énormément, notamment la laïcité, encore une fois, je le répète, qui n'est pas claire dans ce pays. Lorsqu'on mettra des lois très claires, lorsqu'on mettra les choses au clair aussi sur notre propre identité, sur notre propre volonté d'action sociétale, c'est-à-dire tout à l'heure, on parlait de communauté nationale. Aujourd'hui, la communauté nationale, je suis désolé, on n'arrive toujours pas à la définir. On dit tout et n'importe quoi. Si on donne des termes très clairs de ce qu'est la communauté nationale, de ce qu'est l'assimilation dans ce pays, de ce qu'est la laïcité, et ben les gens en fait ils vont s'intégrer d'eux-mêmes, c'est-à-dire que le choix va être très rapide, soit je m'intègre, soit je m'en vais. Les gens qui arrivent dans un pays, ils ont un choix à faire, celui de rester ou celui de partir. Moi j'ai vécu en Tunisie un petit peu avant de venir en France, j'ai choisi de partir. Désolé, j'aime beaucoup la Tunisie, mais c'était pas un modèle de société qui me correspondait. Je préfère largement le modèle français, et je suis très heureux en France. C'est un choix, c'est-à-dire que demain il faut permettre à ces gens de faire un choix, soit on aime ce pays et ses valeurs et on décide de rester, soit on part.
Après, quand on a Macron qui dit qu'on est 100% français et 100% algérien ou 100% d'une autre origine, on peut pas réussir à
s'intégrer. On la connaît,
celle-là. Il y a Alex qui touche son stylo, là, il est pas à l'aise.
En fait, je vous écoute tous parler. Tout le monde a un petit peu raison. Après, je dois avouer que je me range un peu plus du côté d'Armand. Je suis d'accord, en fait. Je reprends ce que vous disiez sur la dimension religieuse. Donc, peut-être que je mal à droite, mais ce que vous disiez, justement, moi je pense qu'on oublie la dimension religieuse qui est justement très importante. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et en fait, le voile, déjà, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement sacré dans cette religion. Et je pense qu'en France, ça le devient encore plus dans la mesure où c'est devenu un objet de lutte avec les pouvoirs publics. Donc, c'est demander à des personnes de renoncer à la partie la plus sacrée de leur culture, alors que même les pouvoirs publics ne sont pas capables justement de fixer des contours clairs à ça. Donc en fait, on ne peut pas leur en vouloir de faire ce qui leur est autorisé. Moi, c'est ça qui m'embête.
Elliot.
Non, mais c'est comme les jeunes qui viennent casser parce qu'ils s'ennuient chez eux.
Non. Je sentais que c'était
bah oui.
Mais non,
mais si.
Pas du tout.
Alexandre, un dernier mot.
Je vais faire le sociologue de base, mais. Excusez-moi, le gauchiste en moi a envie de sortir.
Alexandre, bon,
je pense que dans mon cas, en fait, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous allez au Sénégal, 95% musulmans, je vois pas beaucoup de voiles. Donc souvent, par contre, ça a beaucoup à voir avec la création d'une contre-culture qui veut s'établir en opposition à la culture dominante. Mais ça vous avez beaucoup de sociologues
oui,
qui l'analysent.
Vous, vous pouvez pas nier que la religion est pour quelque chose.
Oui, c'est un prétexte. En fait, pour moi, c'est une revendication de sécession sociale. Et c'est encore plus grave, en fait.
Mais c'est pour ça que je disais que, justement, c'est encore plus cette question est encore plus importante en France, parce que c'est devenu vraiment un sujet du débat public et de confrontation entre deux vraiment courants de pensée très différents.
C'est l'électoralisme qui a amené ça aussi.
Une grande partie, je vous le conçois.
Merci, Elliot. Et non.
Et cette fois, je suis d'accord avec monsieur.
Très bien, très bien.
C'est marrant parce que vous êtes d'accord avec lui quand il a dit le gauchiste en lui a envie de sortir.
Oui, c'est ça aussi.
Je suis encore une fois accusé, je suis obèse et de gauche, c'est ça.
Merci beaucoup, Alexandre.
Merci.
Merci infiniment beaucoup. Pour votre intervention. Et puis, vous êtes le bienvenu, hein, vous venez quand vous voulez.
À bientôt être chroniqueur, voilà. Mais à cette allure-là. Hein. Ah, fais gaffe.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Et on se retrouve tout de suite.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
On ne va pas se mentir, avec Baya Carla et sa bande, tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.
Vous écoutez toujours Radio Courtoisie, on ne va pas se mentir, on ne le dit pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Baptiste Gilly est avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Elliot, c'est à vous.
Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes notre invité aujourd'hui, cette déléguée nationale de l'UNI, l'Union Nationale Interuniversitaire. Donc, dans un paysage étudiant souvent dominé par les organisations de gauche, l'UNI revendique une autre vision de l'université, de la méritocratie, de la liberté d'expression et plus largement de la société française. Qu'est-ce que c'est que l'UNI réellement ?
Alors, l'UNI, c'est déjà près de 60 ans d'histoire, de combat, de militantisme. Et c'est surtout une droite fière de ses valeurs. C'est ce qu'on veut incarner. On veut montrer aux étudiants qu'il y a un autre chemin qui est possible à côté de ce que l'extrême gauche veut projeter de l'enseignement supérieur. Nous, on défend le travail, le mérite, l'excellence, qui a fait en soi la grandeur de l'université française et plus largement de la France. Et donc, avec ce credo-là, on avance et on fait malgré le terrain qui est l'université, qui est un peu le réacteur gauchiste qui ensuite infuse dans toute la société. Donc voilà, c'est un peu notre credo, et d'ailleurs ça marche plutôt bien puisqu'on est la troisième organisation étudiante de France. On est la seule de droite qui est représentative et c'est plus de 25 000 membres et adhérents. Donc voilà, c'est ça l'UNI.
Pour vous, l'UNI, c'est un parti politique un peu aux prémices dans les universités ou pas ?
Alors, c'est pas un parti politique, c'est une association étudiante, puisque c'est pas non plus un syndicat. Il y a toutes les associations de gauche qui disent que ce sont des syndicats étudiants. Non, nous, on est une association, on est constitué en association, et notre but, c'est de porter ces revendications-là. Et effectivement, on est un peu le prémice de ce que la droite fait aujourd'hui, c'est-à-dire le combat métapolitique. C'est aujourd'hui ce qui se met le plus en avant. Il y a énormément de partis, de groupes qui se créent pour justement prendre le pouvoir ne serait pas uniquement par de l'électoralisme, mais surtout par travailler le terrain, faire avancer nos idées concrètement, et ensuite, le pouvoir nous tombera dans la main. Et justement, l'UNI fait ça avant tout le monde, puisqu'on l'a fait en réaction à mai 68 et ce qui s'est passé, ces événements qui ont mis la France à genoux.
Les universités sont majoritairement de gauche pour vous ?
Alors, les universités sont pas majoritairement de gauche. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont de gauche aussi parce que c'est la fougue de la jeunesse qui fait qu'ils se placent plutôt à gauche. On a beaucoup de professeurs aussi et de présidents d'université qui sont à gauche. Mais nous, on continue à dire que l'université, elle devrait ni être de droite ni de gauche. Elle devrait
laïque
certes, mais au-delà de ça surtout enseigner les savoirs qui vont permettre de former intellectuellement la jeunesse de demain qui va porter le pays dans tous les domaines.
Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes inscrit Et vous êtes devenu un des délégués de l'UNI.
Alors, c'est en arrivant à Sciences Po Grenoble. Moi, je viens d'un petit village du Var, donc rien à voir. Il y a très peu de gauche, très peu de ce grand n'importe quoi qui est l'enseignement supérieur aux mains de la gauche. Donc, en arrivant à Sciences Po Grenoble, qui est donc à Grenoble une ville d'extrême gauche, l'UGA, l'université de Grenoble-Alpes, qui est une université de gauche, et Sciences Po en plus, qui est une école particulièrement à gauche, le tout a fait que c'était vraiment extrêmement dégradé, qu'en fait l'école était fermée ou bloquée toutes les 2-3 semaines. Ça devenait vraiment impossible et invivable. Et donc, en réaction à ça, je me suis dit que moi-même, au lieu d'être juste spectateur, il fallait que je franchisse le pas et justement que je puisse défendre mes valeurs et ne pas laisser Sciences Po, l'université en général, aux mains de cette extrême gauche qui détruit vraiment le fondement de l'université et toutes ces valeurs qui me sont chères, le travail, le mérite, l'excellence.
Vous pensez que l'université, enfin surtout les jeunes dans les universités deviennent de gauche à cause de l'État qui les a abandonnés, de l'éducation nationale qui les a abandonnés ou pas?
Non, je pense pas. Je pense que la jeunesse fait que effectivement, on n'a pas forcément une expérience de la vie qui fait que on peut se structurer intellectuellement et même politiquement pour pouvoir savoir ce qui est le plus pertinent dans une société. Et donc, on est aussi plus sujet à l'influence des réseaux politiques. Et forcément, quand on arrive à l'université, qui est un lieu où l'influence de l'extrême gauche est très forte, on va avoir plus tendance à se politiser à l'extrême gauche ou à gauche. Mais il faut savoir qu'il y a aussi toute une partie de la jeunesse, dans l'enseignement supérieur ou ailleurs, qui est de droite. Et d'ailleurs, il y a quand même une énorme majorité silencieuse dans les universités qui n'est pas politisée, puisque le taux de participation aux élections étudiantes, elle est en général de moins de 10%.
D'accord. Donc vous êtes, entre guillemets, vous êtes une association de toutes les droites? De toutes les droites. Donc vous avez réussi à unir beaucoup de personnes derrière vous autour d'un projet sur toutes les droites.
Oui,
qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas écouté auprès des partis qui veulent être, qui ne veulent pas faire une union des droites?
Alors on est écouté même par des partis qui ne veulent pas faire d'union des droites et qui ne sont pas de droite en soi. Le MoDem, par exemple, sur tout le travail qu'on fait institutionnel, donc pas de lobbying, mais comment dire, ce travail où on va leur proposer des choses, les mettre en garde sur certaines choses, le MoDem réagit très bien et très régulièrement reprend nos propositions. Mais effectivement, nous, notre but, c'est de fédérer les étudiants de droite au-delà des chapelles politiques, au-delà des partis, parce qu'en fait, quand on est à l'université et quand on est de droite, on est déjà en minorité et on peut pas se permettre de se faire des guéguerres idéologiques. Le but, c'est de se grouper tous ensemble sur le gros socle de valeurs qu'on a tous en commun, qui en gros fait 80-90% de nos valeurs, et se grouper autour de ces valeurs-là pour pouvoir faire pression pour que les universités gardent ces valeurs et les défendent.
Vous avez parlé de Sciences Po, où vous êtes, du coup c'est Sciences Po Grenoble. Vous avez eu les mêmes problématiques que Sciences Po Paris, c'était la même chose?
Bah oui, alors forcément,
beaucoup
de blocus, le terreau sociologique est un petit peu le même, donc forcément c'est beaucoup de jeunes plutôt bourgeois qui se pensent révolutionnaires, donc effectivement énormément de blocages, et surtout une pression qui est de plus en plus inquiétante, parce que on a toute cette gauche islamo-wokiste, islamo-gauchiste, qui arrive et qui prend racine là-dedans. Par exemple, quelques mois avant que j'arrive à Sciences Po Grenoble, il y a eu le nom d'un professeur qui avait été tagué sur les murs quelques semaines après l'affaire de Samuel Paty, le drame de Samuel Paty, parce qu'il avait juste remis en cause le terme d'islamophobie, qui est quand même un terme qui a été forgé par les frères musulmans. Donc en fait, ça devient même impossible, au-delà des blocages, de pouvoir faire de l'éducation, de l'enseignement libre et du débat intellectuel, ce qui est quand même la vocation des universités.
Et vous arrivez encore à aller à l'école?
Justement, gros sujet. Sur ma dernière année, quand j'étais responsable de l'UNI à Grenoble, ça devenait impossible parce que je m'étais opposé au blocage, que ce soit physiquement, toujours dans la non-violence, mais physiquement en allant les voir en disant « Bah non, vous faites pas ça, c'est pas le lieu. » Et en fait, ils ont commencé à me suivre, à me mettre une pression permanente, à venir dans mes cours, dans mes contrôles, mes examens. Et donc, j'ai vu avec le directeur pour pouvoir passer en distanciel. Donc aujourd'hui, je suis en distanciel parce que ça devenait beaucoup trop compliqué et beaucoup trop pesant pour moi, mais surtout aussi pour le bon déroulé de mes études. Quand on a des étudiants qui ne veulent pas travailler avec vous dans les travaux de groupe parce que vous êtes de droite ou parce que vous êtes à l'Uni, ça commence à poser un problème.
Donc il y a une grosse stigmatisation des gens de droite à l'université.
À l'université, ça dépend d'où. Dans certaines universités, beaucoup. Dans les instituts d'études politiques, encore plus. Parce que comme je disais, ça attire une certaine sociologie qui en fait est particulièrement intolérante, particulièrement politisée à l'extrême gauche et qui n'accepte pas la contradiction ou qu'une personne sorte de ce carcan intellectuel qu'ils essayent de...
Demain, vous allez vous encarter ou pas?
Je sais pas, je pense pas. Pour
vous avez envie d'avoir une carrière politique peut-être?
Pour l'instant, j'ai pas vraiment la tête à ça. Je suis pleinement concentré dans l'UNI et je verrai ensuite ce qui se dessine pour moi. Mais pour l'instant, c'est pas la carrière qui mène mon combat actuel. Bien au contraire, c'est les valeurs. Et voilà, si j'avais voulu faire carrière, je me serais mis directement dans un parti.
Est-ce que vous pensez que Sciences Po devient problématique et du coup risque d'être dissous?
Non, alors l'orientation que certains IEP ou que Sciences Po Paris a pu prendre auparavant ou encore aujourd'hui sont problématiques, hein, puisqu'on va vers une dérive et un savoir qui est enseigné qui est complètement idéologisé. Donc effectivement, c'est très inquiétant, il ne faut pas le dissoudre. Au contraire, le but des instituts d'études politiques et de Sciences Po, c'est de former l'élite qui pourra demain gouverner en partie la France et tous les écosystèmes qu'il y a autour, les entreprises.
Du coup, s'ils gouvernent, ça veut dire que potentiellement tous les gens qui, enfin, une grosse partie des gens qui sortent de Sciences Po et de ces instituts politiques, de formation politique, oui, sont des gens de gauche.
Alors, à la première feuille de salaire, en général, il y a quand même une bonne partie qui repasse à droite, mais effectivement, ça, il y a certaines personnes qui restent de gauche et après avoir la carrière qu'ils font et qu'ils prennent.
D'ailleurs, j'avais une question sur ça. Vous êtes comment vous proposez des choses avec l'Uni, vous proposez quoi comme programme qui fait que les gens vous rejoignent?
Au-delà des valeurs que j'ai énumérées au début, on a un programme qui est plus social sur certaines choses. Par exemple, pour ce qui est de la précarité étudiante et du fait que beaucoup d'étudiants aujourd'hui ont du mal à faire plus d'un repas par jour, n'arrivent plus à bien manger. Il y a la gauche qui propose le repas à 1€.
Ou le SMIC étudiant aussi.
Oui, alors le SMIC étudiant, ça c'est complètement utopiste, mais on pourra y revenir après. Mais pour ce qui est du repas à 1€ qui a été adopté, c'est complètement ubuesque parce que ça alourdit énormément les dépenses des CROUS, ça sort complètement des courbes et ça devient impossible de financer les CROUS. Et nous, au contraire, on a une mesure qui est beaucoup mieux et beaucoup plus pragmatique, qui est le ticket restaurant étudiant, un peu sur le modèle de ce qu'on fait dans les entreprises, donc qui est en partenariat avec le privé, qui serait pris à moitié par le CROUS et l'université, à moitié par l'étudiant, et donc qui doublerait le pouvoir d'achat des étudiants et qui permettrait à la fois de se nourrir dans les CROUS, mais aussi dans tout l'écosystème local qu'il y a autour, et par exemple faire travailler les agriculteurs. C'est d'ailleurs ce qu'on a mis en place pour plus de 140 000 étudiants avec le précédent gouvernement, pour tous les étudiants qui sont à plus de 25 minutes d'un restaurant CROUS, et ça a très bien marché sur ces 140 000 étudiants qui en sont très contents.
C'est quoi l'avenir de l'Uni d'ici les 5 prochaines années?
5, 50, 100 prochaines années sera toujours de porter nos valeurs, porter ce combat qu'on mène depuis près de 60 ans et de défendre ce qui, pour nous, permet à l'université de continuer à être dans l'excellence et à porter la France plus globalement au rayonnement international et national.
Merci Baptiste.
Merci à vous.
Merci encore une fois Baptiste d'être avec nous. Alors moi je suis très heureuse de vous voir.
Bah, c'est très gentil, moi aussi.
J'ai eu la chance de pouvoir être en école de journalisme avec Alex.
Exactement.
Et je peux vous assurer que je n'avais pas un très grand fan club là-bas.
Je confirme. Je trahis aucun secret à le dire.
Tu trahirais un secret à le dire?
Non, je trahis aucun secret à dire que vous n'avez pas une grosse cote là-bas.
Non, c'est vrai que c'était assez compliqué. Bon, j'y suis encore un peu. Et nous, dans l'école de journalisme, on n'a malheureusement pas d'association politique.
Non, pas du tout.
Mais c'est quand même assez de gauche.
J'imagine.
Mais si vous êtes là ce soir, c'est parce que j'avais envie de parler d'un sujet. Donc, la laïcité est-elle appliquée de la même manière à tout le monde? C'est la question soulevée par l'Uni après une décision de l'Université de Caen. L'administration a demandé au syndicat étudiant de retirer un crucifix accroché dans son local au nom du principe de neutralité. Dans le même temps, l'Uni dénonce le fait que l'association étudiante musulmane de France disposerait de locaux universitaires où seraient organisées des activités à caractère religieux. L'organisation étudiante parle d'une laïcité à deux vitesses et accuse l'université de faire preuve d'un double standard. Alors, simple application des règles ou traitement différencié selon les religions, c'est le débat que nous ouvrons aujourd'hui. Nous ouvrons, j'arrive plus à parler. Je suis fatigué, pardon. Elliot.
Pour le coup, la laïcité, on en a parlé en conseil municipal, mais je pense que l'université est tout aussi touchée. On en a un peu parlé avec des problématiques gauche-droite. Donc si on a les problématiques gauche-droite déjà à l'université, on a forcément les mêmes problèmes qu'en conseil municipal.
Exactement.
Baptiste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette affaire?
Alors justement, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, nous, l'Uni, on a des locaux à l'université de Caen parce qu'on est représentatif des étudiants, c'est-à-dire qu'on a des élus. Et donc à ce titre-là, on a l'obligation, l'université a l'obligation de nous donner des locaux pour pouvoir faire nos activités syndicales. Et dans ces locaux-là, on a mis une petite croix en bois, sans prétention et surtout sans prosélytisme religieux. Bon, voilà.
Il n'y a pas la tête de Lola à côté aussi?
Oui, ça forcément, c'était nos affiches aussi. Parce que pour nous, c'est important de se souvenir aussi, puisque c'est un sujet important. Et au-delà de ça, donc, on a ce local-là. Et les EMF, qui sont les étudiants musulmans de France, qui ne sont pas uniquement des étudiants musulmans en France. C'est la branche étudiante des frères musulmans, les frères musulmans qui ont un projet d'islamisation de l'Europe. Et ce projet-là, ils le portent au travers de toute une galaxie d'associations dont les EMF font partie et qui est constituée en association aussi européenne qui s'appelle le réseau du FEMISO. Donc c'est vraiment une association qui a une vision très rigoriste de l'islam, d'un islam conquérant, qui eux aussi ont un local alors qu'ils n'ont pas d'élus étudiants. C'est un local gracieux qui leur est prêté sans aucun titre à l'université, c'est un choix de l'université, à la limite pourquoi pas. Et dans ce local, le problème est que les étudiants musulmans de France organisent des formations ramadan, des formations iftar suivies d'un iftar, donc une pratique religieuse, du prosélytisme religieux au sein d'une université publique. Et on a vraiment une différence. Et depuis 2024, on a recensé entre 6 et 8 de ces événements dans les locaux de l'université ou du CROUS, sans jamais qu'il y ait ne serait-ce qu'un avertissement de la part de l'université. Alors que nous, à partir du moment où des agents ont vu cette petite croix en bois sur le mur, encore une fois, je le répète, sans prosélytisme, sans rien autour, ils nous ont demandé, ça a été vraiment le scandale, d'enlever tout de suite ce crucifix. Donc effectivement, nous, ce qu'on dénonce, c'est cette différence et cette laïcité à deux vitesses, qui est complètement insupportable.
Justement, là, j'ai le mail sous les yeux, donc je vais vous le lire. Monsieur, lors d'une visite, les agents de l'université ont constaté la présence d'un crucifix dans votre local. Je me permets de vous rappeler que l'utilisation des locaux qui vous sont mis à disposition doit respecter les règles de neutralité dans le cadre du principe de laïcité. Dans ce cadre, pourriez-vous veiller à ce qu'il n'y ait plus de signes religieux dans votre local ? Je vous remercie de me le confirmer et reste à votre disposition pour toutes les informations complémentaires. C'est quand même choquant. Armand, vous en pensez quoi ?
Moi, j'ai un problème, c'est avec le rôle de l'université. Pour moi, il ne devrait pas y avoir ce crucifix, je vous le dis, mais il ne devrait y avoir rien d'autre. C'est-à-dire que l'université, ça doit pour moi être la continuité de ce qu'il y avait au lycée. C'est-à-dire la continuité de l'éducation nationale et de la neutralité absolue. Je supprimerai d'ailleurs aussi toutes les associations étudiantes à caractère politique, que ce soit l'UNI, que ce soit le NPA, que ce soit la Farge et autres. Je supprimerai vraiment absolument tout ça et je remettrai l'université dans son rôle qui est premier, celui d'éduquer des étudiants.
C'est très bien, alors c'est très beau, c'est très utopiste.
Ça marche pas, mais c'est
exactement.
Mon avis.
Voilà, c'est très utopiste, c'est comme plein de choses. On peut vouloir des licornes, mais effectivement, c'est compliqué. Mais le fait est qu'en fait, si on veut supprimer ces associations, elles se constitueront tôt ou tard. Et le fait est que.
Le soit à l'extérieur de l'université, c'est pas.
Mais elles le seront aussi à l'intérieur. Le fait est qu'aujourd'hui, dans l'université, il n'y a pas que ces associations qui posent problème. Il y a aussi des groupes et un amas de groupes, de groupuscules, d'associations qui se font pour bordéliser réellement l'université. Les bloqueurs, ils disent pas que c'est l'UNEF ou ils disent pas que c'est l'UNEF. C'est juste un regroupement de tous ces gens, pas revendiqués, mais qui vont bordéliser l'université. Donc qu'on les supprime ou pas, le résultat sera le même. Et surtout, une deuxième chose est qu'il y a des élections étudiantes dans toutes les universités de France. Et pour faire des listes étudiantes, il y a un certain nombre de critères que uniquement des organisations qui ont l'habitude de faire ça et qui peuvent porter un projet politique peuvent présenter ces listes-là, les constituer et porter une voix dans les conseils d'administration. Donc effectivement, ce serait très bien, mais pour ça, il faudrait aussi supprimer la représentation étudiante dans les universités, ce qui était le cas avant 68 et avant la loi Faure. Donc pourquoi pas, moi je suis aussi pour le fait de supprimer une partie de la représentation étudiante dans les facs, mais ça demande beaucoup de courage politique et une réforme d'ampleur.
Est-ce que vous avez répondu à ce mail ?
Oui, on a répondu en demandant que si vraiment c'était leur choix et leur demande, on n'aurait aucun problème à retirer ce crucifix puisqu'on se conformerait aux règles étiquetées par l'université s'ils considéraient que ça contrevenait à la laïcité. On pourra y revenir aussi. Mais on demandait aussi des explications sur pourquoi est-ce que les étudiants musulmans de France, qui encore une fois, ça
déjà,
me pose un problème.
Le nom de l'association est problématique.
Exactement, c'est ce que je disais. Par définition, cette association, une association étudiante doit s'adresser à tout le monde. Là, c'est une association qui est manifestement confessionnelle et communautaire, donc elle ne devrait pas avoir un local. Et en plus, comment se fait-il qu'il y a eu plus de 5, 6, 7, 8 événements religieux, à caractère religieux, dans le local des EMF ?
Il y a d'autres associations culturelles, entre guillemets, enfin...
Justement, eux disent que ce sont... normalement, non, en tout cas...
Mais je veux dire, il y a les Juifs de France, il y a une association des chrétiens de France, ouais, qui ont aussi un local ou pas ?
Non, justement. Il y a l'UEJF, le MEJF, qui sont les associations juives, qui d'ailleurs ne veulent pas avoir des étudiants, sauf à Paris 1, où l'UEJF a un élu, mais n'ont pas de locaux.
Ça, c'est normal, chose. Il a été tagué, je crois, plusieurs fois, ou alors saccagé.
Oui, d'accord,
je peux comprendre la frayeur.
Mais en fait, je trouve qu'il y a un problème qui est plus global, de se cacher derrière des activités culturelles pour en fait faire du cultuel.
Oui. Absolument, je suis totalement d'accord. Armand.
Non, mais moi, j'ai... Bon, je me souviens, moi, j'étais en sciences politiques, mais à Nanterre.
Ok,
Paris,
oh, bah, punaise, super.
Et j'avais le président de, du NPA, enfin, du syndicat du NPA, qui était à côté de moi en cours et qui voulait absolument me retrouver après les cours pour me violenter. Mais en fait, c'était marrant parce qu'on se retrouvait à 9h du matin. Donc, s'il avait quelque chose à faire, il pouvait le faire. Ça démontre la lâcheté de ces gens-là aussi quand ils ne sont pas en groupe. Voilà, juste petit aparté. Mais je me souviens de, des discours politiques qui sont en début de cours, où ils arrivent, ils nous balancent leur, leur propagande idéologique, leur programme idéologique, et s'en vont. Et ça aussi, je suis désolé, mais avec la complicité de certains professeurs.
Ouais.
C'est-à-dire que les professeurs laissent aujourd'hui des jeunes venir faire un discours politique auprès d'autres étudiants qui sont souvent en L1, qui effectivement ne sont absolument pas politisés, qui ont une idée de ce qui est bien ou mal, et on te dit, il y a un blocus, c'est super, c'est contre la sélection, ah super, je suis contre.
C'est ça.
Et y a, en fait, il y a... À aucun moment donné, il y a un débat idéologico-politique. À aucun moment donné, il y a de la nuance. Et en fait, on suit un peu comme des moutons. Et c'est vraiment regrettable aujourd'hui que ce soit idéologique.
Recevoir Rima Hassan.
Non, mais moi, il y a quand même un truc qui me choque. C'est qu'aujourd'hui, on est en France quand même. Pays, on est un pays catholique. On va dire, oui, non, mais la France, le gouvernement n'est pas catholique. Ok, si vous voulez, la République n'est pas catholique. Mais en tout cas, la France, c'est quand même 2000 ans d'histoire et 2000 ans de catholicisme. On est en train de quand même débattre pour un crucifix qui fait même pas la taille de ma main.
Dans un local.
Dans un local fermé, face...
Sans prosélytisme.
Elle mettrait une mezouza à la porte.
Face à quand même des groupes qui ne se cachent même pas. Hein, c'est les musulmans de France. Voilà, les musulmans de France qui font l'Aïd, qui font l'Iftar, qui font...
Il y a aussi
qui font le ramadan, qui font les prières et compagnie. Donc c'est, y a, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas une volonté de grand remplacement, là, et qui n'est pas aidée d'ailleurs par l'université.
Complètement. Et puis même, cette association des étudiants musulmans de France, elle a longtemps collaboré avec Humanitaire, qui est une association qui a été condamnée, même pas mise en cause, mais condamnée pour blanchiment d'argent à visée de financement du terrorisme, parce qu'on a réussi à prouver, pas nous, hein, mais l'État a réussi à prouver, qu'il finançait le Hamas. Donc c'est pour montrer que cette association, elle a vraiment des liens qui sont douteux, que ce soit de manière, une manière d'entrisme, où ils font de l'entrisme dans les institutions, mais aussi de manière violente. Et ça, l'université a, encore une fois, donné grassement un local à ses EMF, puisque rien ne justifiait l'obligation de donner un local aux EMF, contrairement à nous qui, étant représentatifs, avons l'obligation d'avoir un local.
Alors moi, je vous vois vous agiter.
Oui, non, mais ça participe à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi la frayeur de certains professeurs qui sont plutôt de droite.
Vous n'avez pas d'autre avis, vous
non,
êtes en train de recycler ce que vous nous avez dit.
Non,
je n'ai pas d'avis, je suis dépité. Peut-être Alex.
Bah moi, je ne pensais pas que j'aurais une émission où je serais autant d'accord avec Armand.
Merci.
Je suis d'accord avec ce que vous avez dit en préambule sur le fait de supprimer les associations, tout ce genre de choses. Mais avant d'aller plus loin, j'avais une première question pour vous. Je voulais savoir depuis quand ce crucifix a été mis dans cette salle et pour quelle raison.
Bah alors, de mémoire, j'ai pas la date précise, mais ça devrait être autour de 2020-2021, puisque avant, ils nous ont retiré notre local et on a dû batailler, alors qu'on était représentatif, pour récupérer ce local auprès de l'université de Caen, qui d'ailleurs est très marqué à gauche même auprès du président. Et on l'a mis parce qu'il y avait les étudiants de la section qui ont voulu mettre ça là avec d'autres
mais
choses.
Attendez, mais il n'y a même pas de question à poser là-dessus.
Bien sûr que
c'est. Bien sûr que non, parce qu'ils s'en fichent.
Mais parce que vous pouvez pas critiquer.
Ils ont pas été mettre une sur l'université We Love Jesus. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils ont pas été mettre un minaret, quoi.
Au-delà de ça, la religion catholique, elle a quand même un statut particulier en France. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a façonné absolument tout ce que nous sommes dans nos interactions, dans la forme qu'a pris notre société, comme la place de d'autres religions dans d'autres pays. Mais en France, c'est le catholicisme qui a fait peut-être 90% de nos comportements collectifs. Donc forcément, il y a cette place particulière où, malgré qu'on soit un État laïque, on peut pas dire que le catholicisme est sur le même plan que toutes les religions, uniquement sur l'histoire, les symboles et la culture.
Alors Alex. Du coup, deuxième question, donc depuis 2020 il y était, est-ce que...
Par intermittence, oui, je pense 2020-2021.
Alors, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle c'est que seulement maintenant que l'université...
Parce qu'avant ils s'en sont pas rendus compte.
Enfin, une question intelligente.
Et ils s'en sont pas rendus compte.
Je vais laisser dérouler, en vrai, j'arrive à un raisonnement très logique.
Ils s'en sont pas rendus compte et du coup, il y a des agents d'entretien qui sont rentrés dans le local et qui s'en sont rendus compte et qui ont fait une esclandre. Ils sont allés voir le président de l'université en lui disant que c'était scandaleux, qu'il fallait surtout pas qu'il y ait ça, et qu'il fallait vite l'enlever, et donc ça a créé l'émoi dans la présidence.
Mais cette salle, elle a été nettoyée plusieurs fois. Pourquoi cette fois-là en particulier ?
Écoutez, ça, c'est le mystère, oui, j'en sais rien, peut-être dû à la personne, peut-être dû au fait que cette personne n'a pas levé la tête pour voir ce qu'il y avait au-dessus d'elle. Je sais pas, mais en tout cas, le fait est que c'est... Parce que maintenant.
Parce qu'évidemment, je m'attendais à ce que ça soit, que ça vienne d'une délation, parce que je me dis, il peut pas rester 6 ans dans une pièce, et au bout de 6 ans, d'un coup, on découvre qu'il est là,
la
et on vous demande expressément de l'enlever.
Ça me rappelle quand même une certaine époque. Hein.
Et du coup, là où je voulais, là où je voulais vous emmener, c'est que, donc, Baya, vous demandez si vous aviez répondu à ce mail et que vous aviez dit qu'il y avait absolument aucun souci.
Si,
y
a deux,
voilà, si c'est,
si ce sont les règles,
voilà, il
n'y
a pas de souci. Maintenant, là où je veux, du coup, vous emmener, c'est qu'il y a deux minutes, vous nous disiez que la religion catholique avait un statut particulier en France. Est-ce que vous pensez qu'un musulman aurait répondu favorablement à cette demande ?
Aurait répondu favorablement. Bah, faudrait d'abord qu'un musulman ait cette demande-là, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'université.
Donc déjà, premier point, c'est vrai que comme vous le disiez, deux poids deux mesures. Du coup, ce n'est pas une demande qu'on fait
et au-delà de ça,
à la religion musulmane.
Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a tout un discours victimaire qui est alimenté par l'extrême gauche ou par certains réseaux islamistes, où en fait, à partir du moment où on va ne serait-ce que critiquer la religion qui est l'islam, pas les musulmans, l'islam, on va nous traiter d'islamophobe, qui est un terme qui a été forgé par les frères musulmans pour discréditer tous ceux qui pourraient apporter une contestation à cette religion. Donc forcément qu'en mobilisant ces réseaux-là, ils ne répondraient pas favorablement,
Mais du coup, il y a deux problèmes, parce que donc, vous nous dites que évidemment, on ne ferait pas cette demande à la religion musulmane, et en même temps, quand vous, on vous fait la demande, vous vous pliez à ces règles. Est-ce que ce n'est pas là aussi que le combat doit être mené? Parce que vous nous dites que vous
ne
faites pas
politique. Mais on ne se pliera pas à ces règles si les EMF gardent leurs locaux. Moi, le crucifix restera dans mon local.
D'accord.
Ça c'est
bien. Voilà, là, je voulais vous emmener. Parce que en même temps, si on veut mener une bataille sans la mener, c'est là où je voulais vous amener.
On peut reprocher.
Ça c'est français.
On peut reprocher cette chose à l'Uni, mais on peut pas lui reprocher à l'Uni de pas mener nos batailles.
Vraiment, je vous vois vous toucher la barbe.
Non, je réfléchis en même temps qu'on a ce débat, effectivement, et qu'on continue
à réfléchir. Écoutez, parce que là, ça arrive une fois dans l'année.
Je réfléchis en même temps qu'on continue à donner des arguments différents. Là où c'est intéressant, c'est effectivement ce deux poids deux mesures. Ça, je suis absolument d'accord là-dessus. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la réponse. C'est quoi leur réponse, justement, par rapport au crucifié, par rapport à ce deux poids deux mesures. Je suppose que vous avez sûrement interpellé.
Bien sûr. Alors, nous, quand on avait fait ce mail-là pour leur demander comment ça se fait, on n'a pas eu de réponse. Par contre, il y a d'autres journalistes qui les ont contactés et qui ont eu comme réponse qu'en fait, ils avaient mis à la fois nous en garde et les EMF en garde, et que si ces mises en garde se multipliaient, ils retiraient le local. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a une mise en garde des EMF, il serait temps peut-être au bout de la 8e fois de se réveiller. Et s'il y avait déjà eu 8 mises en garde avant, il faudrait peut-être se poser la question de est-ce que l'université de Caen a la capacité d'instaurer ces règles et de les faire respecter.
C'est nous qui payons ces locaux, hein.
Bien sûr.
Petit rappel. Hein.
Bien sûr.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'avais demandé, qui finance Sciences Po
Oui, c'est ça, c'est vos impôts qui financent l'enseignement supérieur. Quand il y a des dégradations de la part de l'extrême gauche, c'est aussi vos impôts qui financent toutes ces dégradations. À peu près 1,5 million d'euros par an par université en général.
Continuons à bloquer. Alors.
C'est ça.
Continuons à bloquer.
C'est pour ça peut-être que ça coûte moins cher en frais de roulement de ne pas faire cours que de faire cours. Hein.
Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour ça que l'Uni est importante, puisqu'on est les seuls à débloquer quand il faut, à pousser les présidents d'université à faire intervenir les forces de l'ordre pour débloquer et à nous opposer à toute cette grande déraison qui gagne l'enseignement supérieur.
Vous avez une cagnotte, un truc
Alors vous pouvez donner ou être adhérent de l'Uni si vous voulez, justement, puisqu'on ne vit uniquement que sur les dons de petits particuliers, de petits porteurs qui nous financent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, on a toujours besoin de nouveaux financeurs.
Allez,
donc si vous avez. En plus, c'est un don qui est défiscalisé à 66%. Avec ce que vous avez dû prendre en impôt récemment, c'est le moment.
Si je ne l'ai pas fait à la fac, je ne vais pas le faire aujourd'hui.
Alex, on va passer à vous, comme chaque semaine, la série Un jour, un candidat. Alors, de qui vous allez nous parler aujourd'hui?
Alors, cette semaine, j'ai encore décidé de vous gâter. Je vous propose un 2 pour le prix d'un, mais un peu spécial, ok? Alors, pour le premier, je vous envoie directement le sonore et vous essayez de deviner de qui il s'agit, ok?
Vive la République! Et surtout, vive! Allez! Vive la France!
Le charisme. Ouais, c'est ça.
Alors, vu les rires autour du plateau, je pense que tout le monde a deviné de qui il s'agit.
Non, mais ce qui est bien, c'est que la fin est très longue.
Elliot, je vous laisse la joie de dire de qui il s'agit.
Je dirais que c'est Glucksmann.
Évidemment.
C'est bien, c'est lire.
Non, mais c'est même pas ça. C'est dramatique parce qu'il fait des lancements sur ses meetings qui sont catastrophiques.
Vive la France.
Et là, t'as réussi à trouver un sonore où il y a des gens qui applaudissent derrière. C'est ça qui est exceptionnel.
Ça rajoute en voix.
Je me suis donné pour lui faire de la promo sur RC, ok?
Incroyable. Alex a laissé le sonore vraiment jusqu'au
bout. Je trouve que c'est la partie la plus importante. Il faut au moins lui donner ça, s'il vous plaît. Soyez indulgents.
C'est le seul truc qu'on lui donnera.
Donc du coup, évidemment, il s'agit d'un extrait du premier meeting de Raphaël Glucksmann qui a eu lieu samedi dernier au Doc d'Aubervilliers.
Attendez, juste, j'ai une parenthèse. Les Docs d'Aubervilliers, c'est là-bas où il y a les soirées techno.
Oui.
Exactement.
Il choisit bien ses endroits.
Je préfère la soirée techno.
Je crois que ça chante plus.
Et ça applaudit plus surtout. Alors, ce que vous avez entendu, c'est l'extrait qui a été le plus relayé, mais aussi le plus moqué hein, sur les réseaux sociaux. Alors, je précise qu'à l'heure où on se parle, Raphaël Glucksmann n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, mais on va pas se mentir, ce meeting avait tout d'un lancement de campagne. Alors, affaire à suivre, puisque Léa Salamé devrait très prochainement quitter la présentation du 20h de France 2 et ne pas revenir en septembre pour permettre à son cher et tendre de se lancer dans l'arène de la présidentielle 2027.
Vous êtes sûr que c'est pas ce qui se présente ?
Elle est en train de flopper un peu.
Alors là, vous êtes en train d'insinuer qu'elle paye un flop d'audience au 20h.
Ah non, mais je n'aurais pas la prétention de dire ça.
Ah bah si, c'est les chiffres. Passe sous la barre des 3 millions, c'est un flop total pour le 21 du 20 de France 2.
Et Baptiste,
pardon.
Une réaction sur Raphaël Glucksmann, pas encore candidat, non, potentiellement candidat.
On verra, il y a tellement un nombre de candidats énormes à gauche qui savent plus trop où ils en sont. Après, c'est très risible tous ces extraits, mais quand même, il a réussi à, malgré tout, réunir un petit peu de monde pour un samedi soir, ce qui est pas quelque chose de si mauvais pour ce qui est pas si mauvais pour un, candidat de gauche aussi peu, mais effectivement seulement. Au-delà de ça, il manque quand même d'incarnation et de charisme, et ça se voit tout de suite. C'est un technocrate comme il y en a plein qui fait de la politique à gauche.
Un technocrate.
Alors, je
oui, complètement.
Il a été très longtemps conseiller dans les petits papiers.
Enfin, il est pas très grand, pas grand chose, oui.
Alors je rebondis sur ce que vous disiez, une très grande liste de candidats, et la deuxième personne dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est notre ancien ministre François Bayrou, François Bayrou. Et
je pensais que c'était une devinette.
Alors non, c'était que la première. Ouais. La deuxième, c'est pas une devinette. Je suis désolé. Alors je fais pas que des jeux, mais j'y penserai pour la semaine prochaine. on fait en mode devinette. C'est noté. Alors François Bayrou, et comme il aime rien faire comme tout le monde, tenez-vous bien. Alors lui, il a fait une annonce de non candidature.
Oh non.
Il a fait ça. C'était chez Benjamin Duhamel au micro de France Inter. On l'écoute.
Au moins que l'on puisse dire, c'est que, en effet, c'est pas les annonces de non-candidature qui ont encombré les ondes, hein. Plutôt le contraire. Et si j'étais candidat en même temps, que penseraient les Français et les lecteurs? Ils penseraient que moi aussi, je suis adhérent à ce parti dont j'ai trouvé le nom, qui s'appelle le TPMG. Tout pour ma gueule. Ils penseraient, les Français, que c'est une déclaration de plus pour se mettre en valeur. Et c'est ce que je n'ai pas voulu.
Alors, je sais pas si c'était un clin d'œil à touche pas à mon pote, je sais pas si c'était un clin d'œil à touche pas à mon poste, mais en tout cas, maintenant, il y a plus le TPMP, il y a le TPMG. Donc, a priori, François Bayrou ne sera pas un candidat de plus. Comme c'était quand même une annonce, je voulais quand même vous la partager, celle-là.
Ouais, j'aimerais bien revenir sur ces honneurs exceptionnels où vraiment il se donne l'importance.
C'est incroyable, non,
mais... Il n'a absolument pas d'honneur.
Je vous ai dit aujourd'hui,
personne
je vous
ne l'attend, c'est-à-dire que c'est pas Éric Zemmour en 2021 où tout le monde a tout fait pour qu'il se présente. Là, c'est vraiment zéro, quoi.
Je vous gâte aujourd'hui.
Il a fait beaucoup de campagnes où il savait qu'il allait pas faire 5%. Donc, il aurait pu revenir
des élections présidentielles.
C'est marrant parce que Benjamin Duhamel l'a titillé sur le fait que sa non-popularité pourrait être une cause de sa non-candidature, mais évidemment il a dit que ça n'avait rien à voir avec ça et qu'il peut encore rassembler énormément de gens.
Non, mais c'est exceptionnel, Armand.
Non, mais l'ego de l'homme qui est vraiment désastreux, quoi. C'est oser dire je n'y vais pas, j'ai pas vraiment envie, alors personne n'y attend, effectivement. Qui attend la candidature de Bayrou? Je pense que même lui, il n'y attend pas vraiment.
Il a fait ça pour être Premier ministre.
Même à Pau, on ne l'attend plus.
Mais c'est ça, il est attendu à Pau. Même sa femme ne l'attend plus. Faut être lucide, personne ne veut de lui comme candidat, faut être lucide. Quant à Glucksmann, j'ai une anecdote, j'ai une amie qui est allée à son meeting et qui est plutôt de gauche et qui ne votera pas pour lui suite à ce meeting. Parce qu'effectivement, il était visiblement désastreux. Enfin, il y a un manque de charisme constant, et vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez absolument raison. C'est vraiment le technocrate qui essaie de se la jouer populaire et qui n'y arrive pas, quoi. Bientôt, il va prendre, je vous le parie, je vous parie d'ailleurs dire au chacun, qu'il va bientôt prendre une photo avec une pinte de bière à la main pour faire proche du peuple. Je le sens venir gros comme une maison.
Et il va
aller
en soirée
Moi, je peux même compléter une pinte de bière pour le deuxième ou troisième match de l'équipe de France.
Ouais,
voilà,
complètement.
Ah, bien sûr. Non, en vrai, c'est catastrophique.
C'est un ringard,
je suis désolé, mais c'est catastrophique. Glucksmann, je sais pas comment il peut y aller alors qu'il y a 200 personnes qui y vont à gauche. Je ne comprends pas. Après, Bayrou, on n'en parlera pas parce que Bayrou, c'est magique. Il se pavane, c'est un génie, quoi. Il prenait des jets quand il était Premier ministre. Là, il a dit, je vais aller sur France Inter. Et moi, ancien Premier ministre, je vais venir pour dire que je suis pas candidat. Parce que moi, je vais pas pas comme Pécresse. Parce que sinon, je vais devoir faire une cagnotte. Et vu que personne peut me blairer, c'est mort.
D'ailleurs, j'ai une annonce, les amis. Je ne serai pas candidat. je ne serai pas candidat.
À votre avis, parce que moi j'aime beaucoup votre chronique. Je trouve qu'elle est exceptionnelle.
Là, un jour un candidat.
Ouais, j'aime trop.
Mais en fait, il me donne du biscuit. C'est comment faire sans biscuit. Donc je lance un appel aux dons de toutes les personnalités politiques de France. Donnez-moi du biscuit, s'il vous plaît. On a besoin de faire cette série chaque semaine. Donc c'est toujours un plaisir et quand c'est avec des extraits pépites comme ça, c'est incroyable.
Qui ne sera pas candidat et qui l'annoncera, Jean-François Copé, que personne n'a enfin, vraiment à faire la liste.
Mais d'ailleurs, si vous deviez faire une prédiction sur les prochaines candidatures, on va commencer par allez, Elliot.
Oh, je pense que prochaine candidature qu'on n'attend pas, je vois un mec à droite.
Jean Bardella.
Alors lui, il va s'annoncer, mais pas par choix, par devoir. Non, je dirais forcément un mec DLR parce qu'ils sont jamais. Ils savent pas se mettre d'accord ensemble. Je dirais que Wauquiez, il est capable d'y aller à la dernière minute pour prendre la place de Retailleau parce que je sens que c'est mort un peu.
Baptiste ?
C'est un peu compliqué à déterminer parce qu'à gauche comme à droite, il y a une multitude de candidats et on serait plus vers des désistements que vers des candidats en plus. Mais peut-être qu'au bout du bout, il y aura un grand chef d'entreprise, Monsieur Leclerc ou quelqu'un comme ça, qui essaiera de tenter quelque chose, d'y aller. En tout cas, c'est ce que je vois de personnalités politiques qui sont pas encore sorties du buisson. J'en vois peu. Donc à voir comment ça évolue, mais je pense qu'il y aura plus de désistements que de nouvelles candidatures.
Il y a pas de nom.
Dit Leclerc.
Ah oui, Leclerc, pardon, excusez-moi.
Je vais prendre aucun risque. François Asselineau. J'ai pris aucun
risque.
C'est pas sûr.
Il a des casseroles.
Il a des casseroles, mais il ira quand même pour y aller comme.
Mais honnêtement, il est très calé sur l'histoire, etc. Il a beaucoup de positif en lui, mais en fait
il a les sondages secrets, ceux qui le donnent à 40%, n'oubliez jamais.
Mais je me demande qui vote pour Asselineau.
Ah si, il y a tout.
Alors la famille d'Asselineau. La famille d'Asselineau vote Asselineau, je crois.
Non, il y a le parti souverainiste de France. Il y a un vote souverainiste qui existe et qui vote pour François Asselineau, qui sont des fidèles d'ailleurs.
Ils sont très peu, il y a plus que les fidèles, parce que tout vote souverainiste est déjà allé au Rassemblement National notamment.
Alex,
prochain candidat, moi j'irai sur votre ligne, Baptiste. Je pense à un homme d'affaires. La semaine dernière, on parlait de Mathieu Pigas qui s'était pas officiellement déclaré. Peut-être une candidature officielle qui arriverait.
Vous sortez pas du bois, vous donnez des gens qui vont venir, venir.
Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne une opinion qui va vraiment tous vous scier?
Edouard Philippe.
Alors, peut-être pas pour la prochaine annonce, mais en tout cas, je pense que ça serait une candidature qui va arriver avant la fin 2026. Je vous mets un billet sur la table que François Bayrou serait candidat.
Bah, c'est sûr.
Bah, vous savez quoi ?
Il va dire qu'il y a que des tocards au milieu.
Quand vous rentrez, si vous rentrez, parce que je sais que vous aimez aller festoyer le soir, Armand, écoutez la totalité de l'interview de François Bayrou et vous verrez que c'est pas si clair que ça.
Ok, je prends le pari.
Après, il y avait Ségolène. Je sais pas si elle s'est annoncée vraiment, Ségolène.
Non,
c'est parce que je crois que Ségolène, je pense que
si
pour le coup, Ségolène, elle
s'il y a un nombre
revenir.
D'adhésions à son micro-parti ou de signatures, je sais plus, quelque chose comme ça, elle essaiera de se présenter. Elle constitue un peu ses équipes.
Parce que
elle fait légende aussi.
C'est la plus forte.
C'est clairement quelque chose qui est beaucoup plus crédible. Je suis d'accord. La candidature de Ségolène Montréal, c'est quelque chose qui est très crédible.
Elle
multiplie les sorties de plus en plus. Non, mais elle multiplie de plus en plus les sorties médiatiques. Vous l'avez vu,
elle a esquinté Hollande la semaine dernière.
Elle a été à la table d'Emma pour manger un couscous récemment. Elle en a fait 4 vidéos, donc je pense qu'il y a une volonté.
Elliot, vous pourriez voter pour Ségolène Royal.
Quand je dis que c'est la plus forte, c'est ironique. Hein, c'est la plus forte. Elle arrive. Il y a pas de premier ministre. Ah, je suis là. Il y a pas de premier ministre. Je suis toujours là. C'est Lucie Castébis, mais.
Ok, mais c'est plus crédible que Glucksmann.
Bien sûr. C'est plus crédible, mais après, moi je suis désolé, on dénigre pas les autres alors qu'on fait même pas campagne. Elle arrivait à dégommer son ex-mari quand même.
Mais attendez, est-ce que vous les imaginez tous les deux candidats ?
Mais bien sûr !
Ça serait incroyable, en débat,
ça serait. Elle l'a tué, elle s'est présentée face à Sarkozy, elle l'a été lui mettre 10 ans ou 15 ans après, lui dire il était infidèle, mais bon, tant pis, il continuait derrière, c'est pas grave.
Cela donc vous les voyez les deux.
Bien sûr, ça ne nous regarde pas.
Franchement, je pense que
je l'ai dit dans tous les journaux. Moi, j'expose rien.
Attendez, c'est hyper drôle. Si vous étiez de gauche, vous voteriez pour qui?
Bois-Bram.
Ouais, Karim Bamoine.
Ouais, expliquez votre choix.
De François Hollande.
Pourquoi?
La stabilité, son mandat n'était pas si catastrophique que ça sur certains points, attention.
Armand, il est...
Notamment économique. Non, c'était pas si catastrophique.
Mais c'est parce que Armand,
enfin,
Armand
il préfère qu'il y ait rien
les mêmes
que des choses
mais
qui
mais non, c'est juste
Armand
que je regarde...
les croissants.
Non, mais je regarde juste de manière à ce qui a été fait. C'est, malheureusement, ces 20 dernières années, c'est une cata absolue. Mais c'est vrai que c'est le moins pire. Je dis pas que c'est le meilleur. C'est
Armand,
ce qu'il y avait,
dons...
avait de moins pire.
Tu payes pas assez d'impôts. Tu veux te faire augmenter les impôts par François Hollande, encore une fois.
Mais
tu
fais
des dons à lui.
C'est ce que
j'allais dire. C'était ça. C'était formidable.
Baptiste.
Si j'étais de gauche, ça dépendrait quelle gauche, mais déjà on est loin de la réalité, mais ce serait peut-être François Ruffin qui porte quand même quelque chose. Et
bon, si j'étais de gauche, votre RN. Ah ouais.
Ouais, faudrait bien.
Ouais, Baya, vous dites jamais vous?
Moi? Non, bah attendez, ni, Alex,
ni
vous n'avez pas répondu.
Je vous ai dit.
Ni la personne qui sort du bois bientôt, ni la personne.
Moi, je sais.
Qui?
Gabriel.
C'est vrai que ça m'a valu une petite histoire, ça, donc c'est bon.
Alors, pour ceux qui n'ont pas, la privée joke, il faut regarder les anciennes émissions de Radio Courtoisie sur le YouTube de Radio Courtoisie.
Du coup, Baya
ouais, en vrai, Attal. Bah, après, Attal, c'est plus sans.
Il vient pas de LR, le garçon, quand même. Hein. Faut arrêter
il vient pas de grand chose non plus.
Il a fait sa carte OPS pour dire qu'il était OPS. Mais il a jamais vraiment été OPS. Il a surtout travaillé pour des gens qui sont OPS.
Et on va faire la question de la dernière fois. Avec quel candidat de gauche aimeriez-vous partir en vacances avant?
Avec quel candidat de gauche? Mais j'avais dit
de. Mais oui, ça va être la
même. Vaut mieux me dire quel candidat de droite plutôt.
Ah bah vous de droite alors.
Quel candidat de droite, c'est assez intéressant. Bon, je pense que j'irai vraiment avec Marine Le Pen. Parce que...
Vous aimez les chats.
Non, parce que mine de rien, je pense que... Je sais pas, elle me donne... Je saurais pas expliquer, mais elle a quelque chose de rassurant. En fait, en tant que personne, j'entends pas forcément...
Vous cherchez à passer du bon temps en vacances, vous cherchez une maman de substitution.
C'est vrai que bon, là, si je peux... si on peut allier les deux, écoutez... À vous. Moi, je vous rétorque la question. Avec quelle personnalité
de
droite?
De gauche. Bah,
non, ou de droite. Bah, ouais.
J'avais dit une personne de droite. Donc, allez, de gauche, Clémence Guettet.
Ah, comme moi.
Non, mais vous trichez là.
Mais non, c'est
possible.
Aujourd'hui, on est d'accord.
Alors, moi, j'ai dit avec un politique, pas avec quelqu'un qu'on veut dater.
Des sexistes. Anglicisme, vous mettez des sous dans le pot.
Et puis c'est sexiste. Le but, c'est pas de la dater comme vous dites.
Exactement.
C'est de la séduire.
C'est de m'ouvrir, ouvrir mes chakras, ouvrir ma pensée politique. Et j'ai dit qu'aujourd'hui j'étais d'accord avec Armand sur tout.
Ouais, ouais.
Donc Clémence Guettet.
Non, moi en vrai, j'aimerais bien faire une retraite spirituelle avec Sandrine Rousseau.
Ça serait hyper intéressant.
Non, mais parce que je n'allais pas choisir la facilité. Et Sandrine Rousseau, en vrai, elle est très très drôle.
Je
vous raconte l'anecdote ou pas?
Moi, j'allais dire.
Vous connaissez l'anecdote, vous, non? Ah, peut-être vous la connaissez.
Je vais le découvrir.
C'était très très drôle. J'avais fait un poisson d'avril il y a quelques années. Je crois Sandrine Rousseau devant l'Assemblée.
Ouais, ok, je connais.
Et donc je fais une photo avec elle et je mets sur Twitter je suis très heureuse d'avoir rejoint Sandrine Rousseau, hashtag LGBTQIA+, hashtag vegan, hashtag voilà, tous les drapeaux qui vont bien. Et Sandrine Rousseau m'a republié, a mis et moi j'ai le plaisir de vous annoncer que j'irai sur TPMP ce week-end. Et ensuite on a fait toute une discussion et je lui ai dit mais vous venez vraiment? Elle m'a dit oui c'est ça. Enfin, après on s'est amusé, mais elle a été chercher qui j'étais, elle a vu que c'était une blague, mais c'était assez drôle. Donc voilà, Sandrine Rousseau. En fait j'ai dit tout ça pour raconter mon anecdote, quoi. Elliot.
Moi je vous ai dit, je pense François Ruffin. Je pense que je pourrais beaucoup rigoler avec lui.
Non, lui, il a le sens du business. C'est... Il veut faire un documentaire, lui, comme Sarah Salman.
Il espère juste que Sarah Salman fera partie des vacances.
Vous savez, Elliot, il est pas dans ça.
Non, il est pas dans ça, Elliot.
Non, mais par contre, je pense que pour le coup, il essaierait de me convertir. Et je pense qu'on rigolerait beaucoup parce que je pourrais pas.
Et Baptiste, vous partiriez avec qui?
Avec un candidat de gauche. Je pense que j'irai avec Jean-Luc Mélenchon, alors, pas par adhésion,
alors là,
vous avez
beaucoup de choses à nous dire.
Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui a eu des relations intellectuelles avec énormément de grands personnages, même à droite. Jean d'Ormesson était très ami avec Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressant, avec qui parler. Et ça peut porter à un peu cerner le personnage qui, je pense, sait très bien tout ce qu'il fait, sait très bien toutes les manipulations et toutes les sorties qu'il fait. Donc je pense vraiment que c'est quelqu'un qui doit être intéressant. En discussion, même si je m'inscris en totale opposition avec tout ce qu'il peut dire ou faire.
Donc à gauche, il y a Jack Lang aussi, si vous voulez.
Qui a beaucoup de stories à raconter, je suppose. Non, j'ai pas envie d'écouter celle-là.
Trop vieux.
De story.
je ne développerai pas, trop vieux.
Oh non. Oh, je viens de comprendre. C'est pas beau. Ouais. Oh non. Non, mais c'est fou.
Non mais c'est très drôle Jean-Luc Mélenchon, je suis plutôt d'accord, mais après de là à partir sur la Côte d'Azur avec Jean-Luc Mélenchon, faut y aller hein.
Après, en plus ça c'est très bien, faut pas l'oublier.
Gens de droite, hein.
Non mais je me demande où Jean-Luc mais Mélenchon va en vacances en vrai.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Bah, il a une maison de campagne, je sais plus où.
Oui,
je
crois. Il doit avoir une belle maison lui à mon avis.
Bah, il a une belle maison, oui, ça fait quand même assez longtemps qu'il est en politique, il a une belle retraite, il a eu pas mal de mandats.
Il a été sénateur toute sa vie, il a croqué au PS, il a croqué
partout. Il a eu de très bons mandats,
il a dû avoir des petits financements aussi obscurs.
Bah, pas forcément obscur, hein, il a eu des financements tout simplement. Hein. Ouais. Non, mais je pense
cela ne nous regarde pas. Forcément.
Non, ça va devenir un nouveau titre. Ça.
C'est pas quelqu'un qui a à plaindre du côté financier. Je pense
Moi, je pense que le patrimoine est assez conséquent.
Ouais, bah, dans ses déclarations, vu qu'il est, candidat, on le voit très régulièrement, il est millionnaire.
On peut parler des déclarations, vu qu'on parle des déclarations. J'aimerais bien que si quelqu'un nous écoute au fisc, regardez la déclaration d'Amélie de Montchalin, s'il vous plaît. Je ne comprends pas.
Vous avez un coup de gueule, Elliot.
Comment un énième, comme d'habitude.
On va finir sur le coup de gueule d'Eliott.
Comment on fait pour avoir un 200 mètres carrés dans Paris, dans le 20e, une maison, et l'a déclaré que 1 million. Voilà, j'aimerais bien qu'on me l'explique, parce que s'il est à vendre, je le prends tout de suite. Je fais tous les crédits qu'il faut, mais je veux savoir où une maison de 200 mètres carrés fait 1 million. Voilà.
Mais c'est comme... moi, je trouve que c'est passé un peu sous les radars, mais l'époque où... je crois que c'était en 2021... où on avait pu observer que Emmanuel Macron avait déclaré...
Ah oui, il y a 5 millions qui ont disparu.
5 millions, vous rigolez ou quoi? Vous aviez vu le chiffre qui était ressorti lors de la transaction. La transaction qui, à l'époque, quand il travaillait pour Rothschild. Il a fait une transaction avec McKinsey, Nestlé, etc. Il y avait des sommes astronomiques et en fait, tout cet argent a disparu, je ne sais pas où. Les travaux de la maison de Brigitte.
Oui, ah oui, mais non, mais c'est...
Même le patrimoine change de nom, il met sur le nom de sa femme, de sa famille, de la tante, de l'oncle.
Mais après, ça pose une question. Est-ce que les Français ont vraiment besoin de savoir combien ont de patrimoine les futurs candidats? Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est pas un peu...
Bah, le but de la HATVP, c'est quand même de voir le patrimoine pour vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel. Donc oui, je pense que les Français ont besoin de savoir qu'il n'y a pas d'enrichissement.
Dans le détail, il faut arrêter les conneries.
Je pense qu'on peut regarder l'enrichissement personnel sans dévoiler les chiffres. Je suis d'accord avec vous.
Sans regarder les chiffres,
moi, j'avais pas d'avis, c'était une question. Quoi, vous, votre avis?
Moi, je pense pas que ce soit indispensable. Moi, je pense que c'est pas indispensable. Je pense qu'on peut, il peut y avoir évidemment des organes de contrôle de ce genre de choses, sans pour autant qu'il y ait besoin de dévoiler les chiffres publiquement pour savoir au million près quel est le patrimoine de nos candidats. Je pense pas que ce soit important.
Moi, je trouve ça indécent, je suis d'accord, parce que quand il y avait eu ceux des ministres, d'où
Eliott a beaucoup d'argent.
Non, ça serait... sinon je ne serais pas là, bien sûr, je serais aux Bahamas. Mais c'est vrai que quand on a regardé la déclaration de tous les ministres et qu'on voit certains ministres qui n'ont rien, parce qu'en fait, ils ont toujours été proches du peuple et qu'ils arrivent ministres, même au bout de 10 ans, qu'ils n'ont rien... C'est pour toi, Gérald. c'est quand même... je trouve ça un peu... Ça fait un peu, comment dire... Sous-ministre, alors que c'est un ministre de la justice. Il a été de l'intérieur, justice. Je sais pas, il y a eu un problème. Quand on voit des ministres à 2 millions, 3 millions de patrimoine, et qu'on voit qu'il y a notre premier ministre est à découvert, c'est très dur.
Vous en pensez quoi, Armand?
Non, moi je pense qu'il faudra maintenir public. On se présente à une élection présidentielle, donc une élection publique aux yeux des Français. Je pense qu'il faut être totalement transparent.
Vous direz ça, Rachida?
Mais parce que du coup, pour vous, l'info, c'est quoi l'influence de l'info?
J'aimerais savoir quand même de quel milieu social d'où il vient. Alors c'est très marxiste, mais d'où il vient, d'où il parle. J'aimerais savoir à quelle classe sociale il appartient. Je pense que c'est important de savoir tout ça.
Je pense que ça rentre aussi dans le tabou de l'oseille. Personne ne veut parler du tabou de l'oseille.
Il faut arrêter en France, on a
trop ce tabou.
Baptiste, vous voulez réagir?
Et puis même, c'était pour vérifier leur possession et voir est-ce qu'il y a de l'enrichissement, est-ce qu'il peut avoir de la corruption derrière, toute une transparence de la vie publique qui a été très importante, parce que dans les années 90-2000 on avait énormément de corruption, de comptes à l'étranger, et cette transparence, le but c'est d'empêcher ça, hein.
Merci Baptiste d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Que l'UNI continue sur sa lancée et puis de réussir mon mémoire
en cours,
de fin d'année.
En présentiel.
Leur souhaiter que Armand fasse des dons défiscalisés très prochainement.
Une vague de dons après cette émission peut-être.
Merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté On ne va pas se mentir et on se retrouve la semaine prochaine.
On ne va pas se mentir avec Baya Carla et sa bande tous les samedis de 15h30 à 17h sur Radio Courtoisie.